La philosophie des enseignements de l'islam, par Hadrat Mirza Ghulam Ahmed, que la paix soit sur lui. Au nom d'Allah, le très gracieux, le très miséricordieux, nous nous louons et invoquons ses bénédictions sur son noble messager. Islam, il est on ne peut plus essentiel que toute revendication ainsi que les raisons qui l'attestent proviennent uniquement d'un livre révélé. À l'occasion de cette grande conférence où les participants ont été conviés à présenter les mérites de leur religion respective, en réponse à certaines questions précises, je m'attellerai à présenter et à développer les beautés et mérites de l'islam. Avant d'aborder le sujet, je tiens à préciser que je me suis imposé la règle de tirer tous les propos que je présenterai du Saint-Coran, parole du Dieu Tout-Puissant. Je considère essentiel que toute personne qui prétend suivre un livre, estimant qu'il a été révélé, ne construise son exposé qu'à partir de ce livre, évitant de trop élargir sa présentation, comme s'il écrivait un nouveau livre. Étant donné qu'aujourd'hui mon intention est de présenter les beautés et mérites du Saint-Coran en mettant en évidence l'excellence de ce livre, il m'incombe de ne rien citer qui soit en dehors du Saint-Coran et de tout présenter sur la base de ces versets, en accord avec leur sens et ce qu'on peut en déduire, de façon à ce que ceux qui assistent à la conférence n'éprouvent pas de difficulté à comparer les enseignements des diverses religions. Comme tous ceux qui croient en un quelconque livre révélé vont se limiter à ne citer que des propos compris dans leurs livres saints respectifs, je ne ferai aucune référence au hadith du Saint-Prophète, d'autant que tous les hadiths authentiques du Saint-Prophète ne servent qu'à commenter le Saint-Coran, le livre parfait qui comprend tous les livres. En bref, aujourd'hui, c'est le jour de la manifestation de la gloire du Saint-Coran, et c'est avec humilité que j'implore Dieu le Tout-Puissant de m'assister dans cette tâche. Amin. La philosophie des enseignements de l'islam. La première question. Les états naturels, moraux et spirituels de l'homme. Bien qu'à première vue, les quelques remarques préliminaires faites au tout début de cet exposé peuvent paraître hors de propos, il n'en demeure pas moins essentiel de bien les assimiler si l'on veut apprécier adéquatement la réponse à la première question. Les états de l'homme sont de trois types. La première question s'intéresse aux trois états rencontrés chez l'homme, à savoir ses états naturels, moraux et spirituels. Selon le Saint-Coran, trois sources différentes peuvent être distinguées, chacune donnant lieu à un état spécifique. La première source, le moi instigateur du mal. Dans l'idiome du Saint-Coran, la première source génératrice de toutes les conditions naturelles de l'homme s'appelle Nafs al-Amara, c'est-à-dire le moi instigateur du mal. L'âme est assurément portée au mal. Le Saint-Coran, chapitre 12, verset 54. À tout moment, le moi de l'homme est prêt à inciter au mal. Cela signifie qu'il est un trait particulier du moi de l'homme qui le pousse à commettre le mal, qu'il entrave son évolution vers la perfection, qu'il s'oppose à l'épanouissement de son état moral et qu'il le presse vers des comportements indésirables et malveillants. Ainsi, la propension à l'intempérance et au mal constitue chez l'homme un état instinctif qui gouverne son esprit avant qu'il parvienne à l'état d'immoral. C'est cela l'état naturel de l'homme. Tant que l'homme n'exécute pas ce que sa raison et son intelligence lui dictent, mais persiste aveuglément à suivre son inclination naturelle à manger, boire, dormir, se réveiller, céder à la colère et se quereller, tel l'animal, obéissant à ses pulsions naturelles, alors l'homme demeurera dans cet état naturel. Cependant, obéit-il à sa raison et à son intelligence, et prend-il soin de bien régler sa vie, alors ces trois états, tels qu'ils ont été décrits, n'appartiennent plus à la catégorie des états naturels, mais sont appelés des états moraux. La deuxième source, l'âme réprobatrice. Le Saint-Coran appelle An-Nafs al-Lawwama la source originelle de l'état moral de l'homme. Et je cite comme témoin la conscience qui s'accuse sans cesse. Le Saint-Coran, chapitre 75, verset 3. Je prends à témoin l'âme qui s'accuse, c'est-à-dire je cite comme témoin l'âme qui se blâme elle-même et réprouve le vice et l'intempérance. Cette âme réprobatrice qui constitue la deuxième source, va donner naissance à l'état moral de l'homme. À cette étape, l'homme ne ressemble plus à l'animal. L'objectif visé en citant l'âme comme témoin est de lui faire honneur, comme si en évoluant de l'étape du moi instigateur du mal à celui de l'âme réprobatrice qui se blâme, l'âme a gagné dans l'estime de Dieu, méritant d'être honorée. Ainsi est-elle appelée, car elle réprouve le vice chez l'homme, et ne ménage point que ce dernier soit la proie de ses propres inclinations naturelles, menant, comme l'animal, une vie sans but. Son vœu, c'est de voir l'homme dans un état meilleur, un être de grande moralité, sans que les diverses facettes de sa vie ne soient entachées d'extravagance, et de voir aussi que ses sentiments naturels, ainsi que ses désirs, soient placés sous la gouverne de la raison. Vu qu'elle réprouve tout vice, elle est appelée Nefs al-Lawama, l'âme réprobatrice. Si elle est réprobatrice à l'égard du vice, elle ne pourra cependant instaurer pleinement la vertu chez l'homme, car il arrive parfois qu'elle soit débordée par les instincts naturels, d'où ses trébuchements. Elle est-elle l'enfant, encore faible sur ses jambes, qui, apprenant à faire ses premiers pas, va trébucher malgré lui, et qui de ce fait va se lamenter sur son échec, le cœur empli de remords. En résumé, voilà l'état moral de l'âme humaine, lorsqu'elle s'efforce de faire sienne les grandes qualités morales, mais son insubordination l'exaspère et l'empêche de réussir. La troisième source, l'âme apaisée. La troisième source, celle qui donne naissance à l'état spirituel de l'homme, s'appelle selon le Saint-Coran « Nafs al-Mutma'inna », c'est-à-dire l'âme apaisée. « Ô âme en paix, retourne auprès de ton Seigneur, satisfaite de lui, et lui satisfait de toi. Entre donc parmi mes serviteurs, et entre dans mon jardin. » Chapitre 89, versets 28 à 31. Ô âme apaisée, toi qui as trouvé la paix chez ton Seigneur, retourne auprès de lui, toi bien satisfaite de lui, et lui bien satisfait de toi. Rejoins donc mes serviteurs élus, et entre dans mon paradis. C'est à cette étape que l'âme, une fois purifiée de ses manquements, va amplement s'emplir de force spirituelle, et entrer en communion avec Dieu, sans lequel d'ailleurs, elle ne peut exister. À l'instar d'une chute d'eau qui, de par son volume, et de par l'absence d'obstacles pouvant la ralentir, tombe avec une force fabuleuse. L'âme apaisée va foncer vers Dieu. L'invitation donnée à l'âme apaisée de retourner auprès de son Seigneur fait justement allusion à cela. Elle subit une très grande transformation en ce monde même, et c'était ici même que le paradis lui est en quelque sorte gratifié. Comme le suggère l'invitation donnée à l'âme de retourner auprès de son Seigneur, c'est Dieu lui-même qui va nourrir l'âme, et ce avec l'amour que cette dernière éprouve pour lui. En posant ses lèvres à cette source de vie pour s'étancher, l'âme va échapper à la mort. Le Saint-Coran fait allusion à cela dans le verset suivant. « Et en vérité, prospère vraiment celui qui développe cela, cette droiture-là, et celui qui la corrompt est ruiné. » Chapitre 91, versets 10 à 11. « Celui qui purifie son âme de la concupiscence connaîtra le salut, et ne se ruinera pas, mais celui qui est dominé par ses passions mondaines devra désespérer de la vie. » En résumé, ces trois états peuvent être appelés l'état naturel, l'état moral et l'état spirituel de l'homme. Étant donné que les pulsions naturelles de l'homme s'avèrent être très dangereuses lorsqu'elles sont excitées et que très souvent elles détruisent les qualités morales et spirituelles, elles ont été décrites dans la Sainte Écriture de Dieu comme le moins instigateur du mal. L'on peut se demander quelle est l'attitude du Saint-Coran à l'égard de l'état naturel de l'homme, quelles directives donne-t-il à ce sujet et que préconise-t-il pour le maîtriser. La réponse en est que selon le Saint-Coran, il existe un rapport très étroit entre l'état naturel de l'homme et ses états moraux et spirituels, tant et si bien que même sa façon de manger et de boire influence à la fois son état moral et son état spirituel. Si l'état naturel d'une personne est amené à se soumettre aux directives de la loi divine, alors il se transformera en son état moral et influencera profondément sa spiritualité, car n'est-il pas dit que deviendra sel tout ce qui est pris dans le salin? C'est la raison pour laquelle le Saint-Coran a attaché une importance particulière à l'hygiène corporelle et aux postures corporelles lorsqu'il est question d'actes de dévotion, de purification de l'âme, et d'acquisition de l'humilité spirituelle. La réflexion confirme que les conditions physiques influencent profondément l'âme. Par exemple, lorsque nos yeux sont remplis de larmes, même artificiellement produites, immédiatement, nous ressentons de la tristesse dans le cœur. De la même manière, lorsque nous nous mettons à rire, même si le rire est artificiellement produit, nous ressentons de la joie dans le cœur. Il a également été observé que la prosternation physique faite au cours de la prière, crée au niveau de l'âme un sentiment d'humilité. À l'opposé, se pavaner la tête haute et la poitrine poussée vers l'avant crée chez soi un sentiment de fierté et de vent tardise. Ces exemples démontrent clairement que le spirituel est bel et bien influencé par le physique. L'expérience démontre également que les nourritures de diverses natures ont des effets variés sur l'intellect et l'esprit de l'homme. Par exemple, un examen rigoureux mettra en évidence que ceux qui ne consomment point de viande perdent petit à petit le sens de la bravoure. Ce sens finit par s'émousser complètement et ainsi ils perdent un don louable que Dieu leur avait octroyé. La loi de la nature, d'origine divine, soulignons-le, vient renforcer cette observation en ce sens que les animaux carnivores sont nettement plus courageux que les herbivores. Cela est aussi vrai des oiseaux. Ainsi, il n'y a point de doute que le manger a un effet sur la moralité. À l'encontre de cela, ceux qui sont soumis à un régime constitué principalement de viande avec très peu de légumes voient le côté doux et humble de leur caractère s'estomper. Ceux qui optent pour la voie du milieu verront se développer chez eux les deux qualités morales, à savoir le courage et l'humilité. C'est la raison pour laquelle Dieu, le Tout-Puissant, nous a dit dans le Saint-Coran « Mangez et buvez sans dépasser les limites. » Chapitre 7, verset 32. « Mangez et buvez, mais ne soyez pas immodérés. » C'est-à-dire, mangez aussi bien de la viande que les autres aliments, mais ne mangez rien à l'excès, de peur que cela n'ait un effet néfaste sur votre moralité et que votre santé n'en souffre. Tout comme le physique influence l'âme, de la même manière, parfois l'âme influence le corps. Par exemple, lorsqu'une personne éprouve de la peine, les larmes lui viennent aux yeux, et si elle est joyeuse, elle esquisse un sourire. Nos actes naturels, qu'il s'agisse de manger, boire, dormir, se réveiller, se mouvoir, se reposer, se laver, etc., exercent tous un effet sur notre état spirituel. Notre charpente physique est intimement liée à l'ensemble de notre humanité. Alors qu'une lésion intéressant une région particulière du cerveau provoquera une amnésie, en une autre région, elle entraînera une perte de connaissance. L'air contenant des gaz nocifs provoque des troubles au niveau du corps et par ce biais, l'esprit et tout le système interne en est atteint. Conséquemment, des troubles cérébraux apparaissent, suivis d'une mort rapide. Ainsi, les blessures de nature physique révèlent qu'il existe entre l'âme et le corps un lien mystérieux qui dépasse l'entendement de l'homme. Si ce sujet est cerné de plus près, l'on entrevoit que le corps est pour ainsi dire la mère de l'âme. L'âme ne vient pas du dehors pour s'établir à l'intérieur de l'utérus d'une femme enceinte. Elle est plutôt une forme lumineuse inhérente au sperme qui va commencer à briller avec le développement embryonnaire. La parole de Dieu le Tout-Puissant nous amène à comprendre que l'âme va tirer son origine de la charpente intra-utérine élaborée à partir du sperme, tel que l'affirme le Saint-Coran. Puis nous l'avons développée en une autre création. Aussi, béni est Allah, le meilleur des créateurs. Chapitre 23, verset 15. Puis nous le développons en une nouvelle création. Aussi béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Cela signifie que Dieu va gratifier le corps élaboré dans la chambre utérine d'une nouvelle création, ou encore, Dieu va créer quelque chose de nouveau au niveau du corps déjà élaboré dans l'utérus, et cette nouvelle création s'appelle l'âme. Très béni soit Allah, créateur sans égal. Cette affirmation, à savoir qu'une nouvelle création se manifeste à partir du corps, est un mystère qui révèle la réalité de l'âme et met en lumière le rapport très étroit qui existe entre l'âme et le corps. Aussi, elle nous apprend que nos paroles, faits et gestes, accomplis pour la cause de Dieu, sont réglementés par le même principe philosophique. En d'autres mots, tout comme le sperme porte en lui une âme, de la même manière, l'ensemble des actes pieux recèle une âme. Cette dernière va briller à la mesure du développement atteint par la charpente des actes, et dans sa phase finale, lorsque la charpente sera complètement érigée, l'âme qui s'y trouve brillera de toutes ses forces et révélera sa facette spirituelle. À cette étape, ses actes sont chargés de vie. Cela signifie que lorsque la charpente des actes sera complètement érigée, alors tout à coup, tel l'éclair, quelque chose y brillera. À l'égard de cette étape, Dieu dit dans le Saint-Coran, « Alors, quand je l'aurai formé en harmonie et que j'aurai insufflé ma parole dans son cœur, courbez-vous en soumission à lui. » Chapitre 15, verset 29. Lorsque j'aurai terminé l'élaboration de sa charpente et parachevé toutes ses manifestations de gloire et que je lui aurai insufflé mon esprit, alors vous tous, prosternez-vous à cause de lui. Ce verset nous apprend qu'une fois que l'élaboration de la charpente des actes est terminée, une âme y brillera. Dieu attribue à lui-même la création de cette âme, d'autant que la charpente a été construite aux dépens de la vie temporelle. La lumière divine, sombre au début, se met à resplendir tout à coup avec éclat, de sorte qu'il incombe à tout un chacun qui voit cette transformation divine de se prosterner et d'y être attiré, hormis Iblis qui aime les ténèbres. Il ne sera pas sans intérêt de mentionner ici un point de plus, et c'est que l'enfant qui prend forme dans l'utérus commence à se mouvoir après l'âge de 4 mois et 10 jours, ce qui représente environ la moitié de la période complète passée dans la matrice. Ainsi donc, tout comme dans le cas du fœtus, c'est-à-dire de l'enfant se trouvant encore dans l'utérus, qui manifeste le miracle de sa vitalité après le 4e mois, sortant d'un stade quasi-végétal pour entrer dans un stade animal, la même loi naturelle entrera en opération dans le cas de la naissance spirituelle. C'est-à-dire que le fœtus passe environ la moitié de son séjour au sein de la matrice avant de révéler des signes de vitalité et le flamboiement complet de la vie. Et la même chose a été décrétée pour la vie spirituelle. La vie active de l'homme, où il est préservé des impuretés et souillures résultant de la perte totale de ses sens, est pour la majorité des gens d'environ 80 ans, dont la moitié fait 40 ans, qui ressemble au chiffre 4, c'est-à-dire les 4 mois au terme desquels l'esprit de la vie est octroyé à l'enfant au sein de la matrice. C'est ainsi que tel le prouve une expérience avérée. Lorsque l'homme complète ou se rapproche de la moitié de sa vie active, à savoir ses 40 ans, qui ressemble aux 4 premiers mois intra-utérins, son âme arrive à ce moment particulier, si tant est que la vérité fait partie du levain de son être, où elle commence à manifester ses effets distinctifs et à s'activer. Personne n'ignore le fait que chez la plupart des hommes, la période de la vie précédant les 40 ans reste une époque dominée par l'obscurité. 7 ou 8 années sont celles de l'enfance, 25 ou 26 années sont dépensées dans l'acquisition de différents savoirs ou gaspillées sur les jeux et autres amusements. Puis vient la période où, soit parce qu'il a, par la voie du mariage, une femme et des enfants, soit parce qu'il devient plongé, de par sa nature, dans les désirs de ce monde, toutes sortes d'envies et de convoitises pour les biens et honneurs matériels naissent en lui. Et il va jusqu'à l'extrême dans sa course après les différentes sortes de plaisirs. S'il se tourne vers Dieu, le Très-Haut, ses ambitions matérielles restent malgré tout présentes dans une certaine mesure en lui. S'il prie, il prie surtout pour les choses de ce monde. Et s'il pleure devant Dieu, des objectifs mondains y sont mêlés. Il n'a qu'une foi très faible dans le jour du retour final. Et s'il croit, il croit aussi que l'heure de sa mort n'est pas proche. Et c'est ainsi qu'à l'instar d'une rivière qui sort de son lit et qui poursuit son chemin tout en détruisant les terres y contiguës, le déluge des passions naturelles plonge la vie dans de gravissimes dangers. Dans un tel état, comment pourra-t-il s'intéresser aux détails subtils de l'au-delà? Il se moque des choses se rapportant à la religion et met en avant plutôt sa propre dialectique stérile et sa propre philosophie absurde. Il est vrai que s'il est de nature pieuse, il croit en Dieu, mais sa foi n'est pas basée entièrement sur la sincérité ou la fidélité et n'existe qu'aussi longtemps qu'il jouit du succès dans sa vie. Si ses ambitions matérielles sont accomplies, il appartient à Dieu et dans le cas contraire, à Satan. En bref, l'homme reste dans un état critique durant sa jeunesse et si la grâce divine ne lui tient pas la main, il tombe dans le gouffre de l'enfer. En fait, c'est la jeunesse qui est la racine de toutes les corruptions. C'est le plus souvent durant la jeunesse que l'homme acquiert des désordres physiques et des maladies ignominieuses. Parfois, à cause des erreurs commises durant cette période d'immaturité, l'homme arrive même à se détourner du Dieu vrai et immuable. En un mot, cette période est celle où la crainte de Dieu fait défaut et où les pulsions sexuelles et l'ego dominent, ce qui fait que l'homme n'y est pas disposé à écouter un quelconque conseiller. Et il passe le restant de sa vie à payer pour les fautes commises durant sa jeunesse. Puis il arrive à la quarantaine et la fleur de la jeunesse commence peu à peu à se faner. Voici qu'à présent, il se met à lui-même regretter ses nombreuses erreurs qu'avaient déploré tous ses conseillers. Les passions de son égo continuent à diminuer d'eux-mêmes, car du point de vue physique, c'est la période où la vie commence son déclin. Où est donc le sang incitant au mal? Qu'en est-il à présent de la force qui animait les membres? Et où est passée la vivacité joyeuse de la jeunesse telle qu'autrefois? Désormais, ce n'est plus qu'une période de décrépitude et de dégénérescence progressive. Et les décès des personnes plus âgées que soi se succèdent devant ses yeux, voire même d'enfants dont la mort est une rude épreuve pour plus d'un. Et c'est aussi la période où ses parents s'en vont dans la tombe. C'est ainsi que de nombreux exemples de l'éphémérité du monde continuent à se manifester et Dieu place un miroir devant la personne et lui dit « Regarde ce qu'est en réalité le monde. Voilà comment finit la chose pour laquelle tu n'hésites pas à te tuer. » C'est alors que l'homme se met à regretter ses erreurs du passé et une révolution importante a lieu en lui et un monde nouveau commence pour lui, à condition qu'il soit de son essence bienheureux et qu'il soit de ceux qui y ont été appelés. À ce sujet, Allah, que resplendisse sa gloire, a dit « Et nous avons enjoint à l'homme la bienveillance envers ses parents. Sa mère le porte avec douleur et le met au monde avec douleur. Et sa gestation et son sevrage durent 30 mois jusqu'à ce qu'étant arrivé à sa pleine maturité et ayant atteint l'âge de 40 ans, ils disent « Mon Seigneur, donne-moi la capacité d'être reconnaissant pour ta grâce que tu m'as accordée ainsi qu'à mes parents et de faire de telles bonnes œuvres qui te plaisent. Et rends mes descendants pieux pour moi. Je me tourne certainement vers toi avec repentir. Et en vérité, je suis de ceux qui se soumettent à toi. » Chapitre 46, verset 16. Ce qui signifie « Nous avons enjoint à l'homme, sois bienveillant envers tes parents. Vois avec combien de douleurs ta mère t'a porté. Elle a souffert durant toute la période que tu étais en sa matrice et t'a mis au monde au prix d'énormes peines et douleurs. Elle a subi 30 mois de souffrance à te porter dans son ventre et à t'allaiter. » Puis Dieu dit « Ensuite, lorsqu'un homme droit arrive à l'âge de 40 ans et atteint sa maturité intellectuelle, il se souvient alors de l'injonction de Dieu et dit « Ô mon Seigneur, donne-moi à présent la capacité de te remercier des faveurs que tu m'as faites ainsi qu'à mes parents. Ô mon Seigneur, aide-moi à faire ce qui te fera plaisir et rends mes enfants pieux pour moi, c'est-à-dire que si j'ai manqué à mon devoir envers mes parents, ne laisse pas mes enfants en faire de même envers moi. Et si je me suis laissé passer par une période de débauche, fais en sorte que cela n'arrive pas à mes enfants. Ô mon Dieu, je me repens à présent, et je suis du nombre de ceux qui se soumettent à toi. » Dieu a donc déclaré par l'entremise de ce verset que la 40e année vient comme une bénédiction pour les bonnes gens. Si une âme est porteuse de vérité, elle se mettra à coup sûr à s'activer durant la 40e année. D'ailleurs, la plupart des éminents prophètes de Dieu ont été suscités durant leur 40e année. C'est ainsi que notre chef et maître, Mohammed le Choisi, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avait été suscité durant sa 40e année pour la réforme des créatures d'Allah. L'âme est créée. En revenant à ce que j'avais dit en premier lieu, j'affirme qu'il est une vérité absolue que l'âme est une lumière d'une grande finesse qui se développe à l'intérieur du corps et est nourrie dans l'utérus. Cachée et imperceptible au début, elle deviendra par la suite apparente. Son essence est dès le commencement présente dans le sperme et par la volonté, le dessein et l'ordre de Dieu, l'âme est mystérieusement liée au sperme. Elle est une caractéristique brillante du sperme. On ne peut dire qu'elle fasse partie du sperme comme la matière en fait de la matière, ni qu'elle provienne du dehors ou qu'elle tombe sur la terre pour se mélanger avec les composantes du sperme. Elle est latente dans le sperme comme le feu est latent dans la pierre. La parole de Dieu ne nous dit pas que l'âme est une entité à part entière qui descend du ciel ou qu'elle tombe du ciel pour se mélanger tout à fait par hasard avec le sperme avant de pénétrer dans l'utérus. Un tel concept est sans fondement. La loi de la nature le rejette. Il est une observation courante que des microbes par milliers sont produits dans les aliments avariés et les plaies septiques. Des cafards sans nombre infestent les vêtements sales et toutes sortes de vers font leur apparition dans les intestins. Cependant, peut-on dire que toutes ces bêtes proviennent du dehors ou qu'elles descendent du ciel? La vérité est que l'âme se développe à l'intérieur du corps. Elle est une création et elle n'existe pas d'elle-même. La deuxième naissance de l'âme, le dessein du Tout-Puissant qui a créé l'âme à partir du corps semble être ceci, de faire en sorte que la deuxième naissance de l'âme ait lieu, comme la première, par l'entremise du corps. Les mouvements de l'âme suivent les mouvements du corps, de sorte que si le corps emprunte une direction particulière, l'âme le suivra automatiquement dans cette direction particulière. Il est donc une fonction de la Sainte Écriture de Dieu de s'intéresser à l'état naturel de l'homme. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Saint-Coran attache une importance particulière à la réforme de l'état naturel de l'homme et donne des directives concernant chacun de ses actes, qu'il s'agisse de son rire, ses pleurs, sa nourriture, ses vêtements, son sommeil, son langage, son silence, son mariage, son célibat, sa marche, son repos, son hygiène corporelle ou de sa soumission à une discipline rigoureuse, qu'il soit en bonne santé ou souffrant, etc. Il affirme que l'état physique de l'homme influence profondément son état spirituel. Nous ne pouvons élaborer longuement sur toutes ces directives car le temps nous fait défaut. L'évolution progressive de l'homme. Méditant sur la Sainte Parole de Dieu, l'on constate qu'elle stipule des règles visant à la réforme de l'état naturel de l'homme et qu'ensuite, elle va l'élever progressivement pour l'amener à la pointe ultime de l'état spirituel. Dieu désire dans un premier temps enseigner à l'homme les rudiments du savoir-vivre, tels que comment s'asseoir, comment se tenir debout, manger, boire, parler, etc., pour l'éloigner de la barbarie et le différencier de l'animal. Ainsi, Dieu lui fait don d'un état moral rudimentaire que l'on pourrait qualifier de culture sociale. Dieu veut, dans un deuxième temps, régler ses habitudes élémentaires pour en faire de grandes qualités morales. Ces deux temps font partie du même processus car ils s'adressent tous les deux à la réforme de l'état naturel de l'homme. Il n'y a entre eux qu'une différence de degré. Le très sage a structuré le système moral d'une telle façon qu'il permette à l'homme d'élever le niveau de sa moralité étape par étape. Le troisième palier de cette évolution progressive requiert de l'homme qu'il se consacre à aimer Dieu de tout son être et à ne chercher à plaire qu'à lui. La totalité de son être devra être consacrée à Dieu. Afin de toujours rappeler aux musulmans l'existence de ce palier, leur religion a été appelée l'islam, dont le sens est de se vouer entièrement à Dieu, sans rien retenir. Ainsi Dieu, à lui la gloire, a dit « En vérité, quiconque se soumet complètement à Allah et dont la conduite est excellente, aura sa récompense auprès de son Seigneur. Ils ne seront ni dans la crainte, ni ne seront-ils affligés. » Chapitre 2, verset 113. Connaîtra le salut, quiconque se dévouera entièrement à Dieu en se sacrifiant lui-même pour l'amour de Dieu et fera montre de sa sincérité tant par ses intentions que par ses actes pieux. Quiconque agira ainsi sera récompensé par Dieu. Celui-là ne connaîtra ni peur ni peine. Dis-leur, ma prière et mes sacrifices, ma vie et ma mort sont tous offerts à Dieu, dont la providence embrasse tout et qui n'a point de partenaire. J'ai été ordonné d'agir ainsi, et je suis le premier de ceux qui ont réalisé ce concept de l'islam, et je les offre tous, c'est-à-dire ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort pour la cause d'Allah. Ceci est mon droit chemin. Suivez-le donc, et n'empruntez pas d'autres voies qui vous éloigneront de la voie d'Allah. Dis-leur, si vous aimez Dieu, suivez-moi et empruntez ma voie. Alors Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Il est très pardonnant, miséricordieux. La différence entre l'état naturel et l'état moral de l'homme. Préserver la vie, oui, mais jusqu'à quel point? Nous allons maintenant aborder la description des trois états de l'homme. Cependant, avant de nous y engager, il nous est nécessaire de vous rappeler que, comme l'a indiqué la Sainte Parole du Tout-Puissant, l'état naturel de l'homme, dont la source génératrice est le moi instigateur du mal, n'est pas une chose indépendante de son état moral. La Sainte Parole de Dieu a regroupé les facultés, désirs et pulsions naturelles de l'homme sous la rubrique de l'état naturel ou condition naturelle. Celles-là, lorsqu'elles sont réglées, maîtrisées et mises en œuvre en temps et en lieu, se développent en qualité morale. De la même manière, l'état moral n'est pas complètement indépendant de l'état spirituel. En passant par l'étape où l'on devient totalement éperdu en Dieu, où le moi est purifié, où l'on se coupe complètement du monde pour se remettre entièrement à Dieu, avec amour, sérénité et satisfaction, en accord parfait avec la volonté divine, l'état moral se transforme en état spirituel. Tant que l'homme ne transformera pas ses qualités naturelles en qualités morales, il n'aura droit à aucun mérite, d'autant que les autres créatures vivantes, et même la matière inerte, possèdent elles aussi ces qualités naturelles. De la même manière, pour jouir de la vie spirituelle, le simple fait d'acquérir des qualités morales ne suffit pas. En effet, quelqu'un peut tout aussi bien nier l'existence de Dieu d'une part, et d'autre part avoir des qualités morales. Être humble, gentil, pacifique, ou encore avoir la vertu de s'abstenir du mal et de ne pas s'opposer aux méchants. Ce sont là des qualités naturelles que peut posséder même un ignorant qui n'a ni expérience ni connaissance du salut. Un grand nombre d'animaux sont doux de nature et en les domptant, il est très possible de les rendre inoffensifs et même dociles face au châtiment. Cependant, l'on ne peut pour autant déclarer que ce sont des êtres humains, sans parler des hommes d'un haut statut. De la même manière, un égaré ou même quelqu'un qui a des vices peut lui aussi avoir ses bonnes qualités. Il est possible qu'un quelconque individu puisse développer son sentiment de pitié jusqu'au point de s'abstenir de tuer les bactéries qui pullulent dans ses plaies ou qu'il soit si strict à préserver la vie qu'il ne voudrait pas faire du mal aux poux qui habitent ses cheveux ou aux bestioles qui se trouvent dans ses intestins, ses artères ou son cerveau. Je peux croire que la miséricorde d'une personne puisse la pousser à ne pas consommer du miel, car pour obtenir ce miel, il a fallu tuer bon nombre d'abeilles et les chasser de leurs ruches. Je peux croire que quelqu'un puisse s'abstenir de l'usage du musc, car c'est le sang d'un pauvre cervidé, et pour s'en procurer, il a fallu séparer l'animal de ses petits et le tuer. Je ne nie pas le fait que quelqu'un puisse refuser de porter des perles ou de la soie, car ici également, cela a nécessité la mort des huîtres ou des vers à soie. Je peux même comprendre que quelqu'un qui souffre de douleurs atroces puisse refuser de se faire saigner par des sangsues car il préfère souffrir que de tuer les sangsues. Je peux aller jusqu'à croire qu'une personne puisse pousser sa miséricorde et son sens de préserver la vie au point où elle refuserait de boire de l'eau pour épargner les organismes vivants qui s'y trouvent. Je peux admettre tout ceci, mais jamais je n'approuverai la supposition que ces qualités naturelles sont des qualités morales ou que ces qualités puissent servir à débarrasser l'homme de ses impuretés qui lui font obstacle dans son rapprochement vers Dieu. Je ne peux croire que la douceur, acquise au point, où même l'animal en possède plus que l'homme, pourrait être le moyen grâce auquel l'homme atteindrait un haut niveau d'humanisme. En effet, nous considérons que cette démarche est en conflit avec la loi de la nature et elle est incompatible avec la très grande qualité morale de vouloir plaire à Dieu. Cette démarche nous conduit à refuser les dons que la nature nous a offerts. La spiritualité ne peut être réalisée qu'au prix de la mise en œuvre, en temps et en lieu, de chaque qualité morale, tout en parcourant fidèlement la voie tracée par Dieu et en lui étant entièrement dévoué. Celui qui lui est entièrement dévoué peut être reconnu par le fait qu'il ne peut exister sans lui. Celui qui le connaît vraiment est tel un poisson sacrifié par lui, vivant dans l'eau de son amour. Les trois phases de la réforme. Le saint prophète fit son apparition à l'heure où le monde avait grand besoin de réforme. Comme nous l'avions précisé au début, il existe trois sources, à savoir le moi instigateur du mal, l'âme réprobatrice qui se blâme et l'âme apaisée à l'origine des divers états de l'homme. Aussi, l'on distingue trois modes de réforme. Le premier s'attelle à enseigner aux primitifs incultes les normes élémentaires du savoir-vivre relatif à la manière de se nourrir, au mariage, aux normes vestimentaires afin qu'ils abandonnent le nudisme, aux modes alimentaires afin qu'ils cessent de se nourrir de charognes comme les chiens et qu'ils ne se comportent plus tels des sauvages. Cela constitue la phase élémentaire visant à la réforme de l'état naturel de l'homme, celle que l'on mettrait en œuvre pour enseigner à un primitif de Port Blair les rudiments du comportement social. Une fois que l'homme aura appris les modalités du savoir-vivre, le deuxième mode de réforme va entrer en jeu pour lui inculquer des qualités morales encore plus élevées, pour lui enseigner à utiliser en temps et en lieu ses facultés. Le troisième mode de réforme concerne ceux qui ont déjà un haut niveau de moralité. Ici, l'occasion est donnée aux adeptes assoiffés de boire le nectar de l'amour de Dieu et de leur faire goûter à la sainte communion avec lui, notre chef et maître, le saint prophète, sur lui la paix et les bénédictions d'Allah, fit son apparition à un moment où la corruption avait atteint son apogée dans le monde. Ainsi, Dieu le Tout-Puissant l'a dit. La corruption est apparue sur terre et sur mer. Chapitre 30, verset 42. Sur terre et mer, la corruption s'est répandue. Cela signifie que les gens du livre, ainsi que ceux qui n'avaient eu aucune expérience de la révélation divine, s'étaient tous corrompus. L'objectif du Saint-Coran était de redonner la vie aux morts. Sachez donc qu'Allah ranime la terre après sa mort. Chapitre 57, verset 18. Sachez qu'Allah est sur le point de ressusciter la terre après sa mort. En ce temps-là, les peuples de l'Arabie croupissaient dans la corruption. Aucune forme d'organisation sociale ne prédominait et le vice et le péché étaient leur fierté. Les hommes prenaient un nombre illimité d'épouses et ils s'enivraient de choses illicites. Épouser leur mère était licite et de ce fait, Dieu dut prescrire. Vous sont interdites vos mères. Chapitre 4, verset 24. Ils se nourrissaient de charognes et parmi eux, il y avait des cannibales. Aucun péché ne leur était inconnu. La plupart d'entre eux ne croyaient pas dans l'au-delà et beaucoup niaient l'existence de Dieu. Ils tuaient leurs bébés-filles, de même que les orphelins, pour s'approprier de leurs biens. Ils n'étaient des êtres humains qu'en apparence, le bon sens leur faisant complètement défaut. La modestie, le sentiment de culpabilité et l'amour-propre leur étaient étrangers. Ils consommaient des boissons alcooliques comme on boit de l'eau. Le champion de l'adultère était fait chef. Ils étaient si ignorants que pour leurs voisins, ils étaient les illettrés. C'est à ce moment, et pour réformer une telle société, que notre chef et maître, le saint prophète, sur lui la paix et les bénitions d'Allah, fit son apparition à la Mecque. L'heure exigeait la mise en œuvre de ces trois types de réformes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Saint-Coran affirme avec justesse le fait qu'il est plus consistant et mieux armé que les autres livres pour apporter une solution à ces problèmes, d'autant que ces autres livres ne se virent pas contraints à disserter sur ces trois types de réformes dont la primeur, en effet, revint au Saint-Coran. Le but du Saint-Coran était de faire du sauvage un être humain et de là, de l'embellir de qualité morale et finalement, d'en faire un dévot de Dieu. Ainsi, ces trois projets sont compris dans le plan coranique. Le but véritable des préceptes coraniques est d'apporter ces trois types de réformes. Corriger les conditions naturelles se transforment en qualité morale. Avant de passer à une étude plus élaborée des trois types de réformes, il serait bon de souligner que le Saint-Coran ne cherche aucunement à faire accepter ces doctrines par la force. Bien au contraire, le but ultime du Saint-Coran n'est rien d'autre que d'apporter ces trois réformes. Et tous ces enseignements ne visent qu'à cela. Toutes les autres directives ne sont que des moyens pour parvenir à ce même but. Tel un médecin qui, pour soigner ses patients, doit tantôt intervenir chirurgicalement, tantôt n'appliquer qu'une simple pommade, le Saint-Coran, en signe de compassion pour les hommes, adopte les mêmes procédés. La sagesse, les admonitions et les directives du Saint-Coran ne visent qu'à élever l'homme de son état naturel de sauvage à celui d'un être de grande moralité et de là à le projeter dans le monde infini de la spiritualité. Nous avons déjà souligné que les qualités naturelles ne sont point tout à fait dissociées des qualités morales. Lorsque les premières sont bien réglées et mises en œuvre en temps et en lieu, sous la gouverne de la raison, elles prennent un caractère moral. Avant qu'elles ne soient gouvernées par la raison et l'intelligence, elles n'ont aucune nature morale. Elles sont plutôt des pulsions naturelles, quand bien même elles ressemblent fort aux qualités morales. Par exemple, l'on ne dira pas du chien ou de l'agneau qui manifeste son amour ou sa docilité à l'égard de son maître qu'il est un être de bonne moralité ou bien élevé. De même, l'on ne dira pas du loup ou du tigre qu'il est mal élevé en raison de sa bestialité. L'état moral ne prend naissance qu'après la mise en œuvre de la raison eu égard à l'opportunité du temps et du lieu. Celui qui ne fait pas usage de sa raison et de son discernement est semblable au nourrisson dont l'esprit n'est pas encore gouverné par la raison ou au fou qui a perdu la raison et le bon sens. Parfois, il arrive que l'acte accompli par un enfant ou un fou prenne l'allure d'un fait tenant de la moralité. Cependant, aucune personne douée d'un jugement sain n'affirmera qu'il s'agit là d'un acte moral, car il est clair que l'acte n'est pas le fruit de l'exercice de la raison, mais plutôt une réaction naturelle face aux circonstances prévalentes. Dès qu'il arrive au monde, le nouveau-né cherche les seins de sa mère et le poussin, sitôt éclos, se met à picorer. De même, le petit de la sangsue se comportera comme la sangsue, le serpenteau comme le serpent et le petit du tigre comme le tigre. Un enfant nouveau-né commencera, dès sa naissance, à manifester des réactions humaines qui, avec la croissance de l'enfant, se définiront mieux. À l'âge d'un an ou d'un an et demi, les réactions naturelles sont très apparentes. Ainsi, les pleurs gagneront-ils en intensité, les sourires se transformeront en rires et la vue deviendra plus perspicace. L'enfant, à travers ses mouvements, commence à manifester sa satisfaction ou son mécontentement. Il essaiera parfois de frapper quelqu'un et d'autres fois de lui offrir quelque chose. L'ensemble de ses actes relève de réflexes naturels. De même, pour le primitif inculte, sa parole et ses actes sont la résultante de ses réflexes naturels. Chez lui, rien n'apparaît qui soit le résultat de l'exercice de ses facultés internes, entendons la raison, l'intelligence, le bon sens. Tout procède des pulsions naturelles et des réactions réflexes vis-à-vis des stimuli externes. Il se pourrait qu'il n'y ait rien de vicieux dans ses actes, qui sont des réactions réflexes face aux stimuli externes, et parfois, ces actes peuvent avoir l'air d'actes moraux, mais normalement, le raisonnement et la pondération n'y interviennent pas. Même si à certains degrés, il y a mise en jeu de la raison, on ne peut pour autant les définir comme des gestes de bonne moralité, car l'élément pulsion naturelle prédomine largement. La vraie moralité. En résumé, l'on ne pourrait dire de quelqu'un qu'il possède de vraies qualités morales, si tel l'animal, l'enfant ou le fou, il ne fait qu'obéir à ses pulsions naturelles et vivre plus ou moins comme le sauvage. La vraie moralité, bonne ou mauvaise, n'apparaît qu'à partir du moment où il y a maturité d'esprit, discernement entre le bien et le mal, appréciation de l'intensité du mal ainsi que du bien, regret d'avoir manqué à une occasion de faire du bien et remords après avoir commis quelque chose de mal. Le Saint-Coran se réfère à cette deuxième étape dans la vie de l'homme par la désignation de l'âme réprobatrice qui se blâme. L'on doit cependant se rappeler qu'une légère réprimande ne suffit pas pour faire passer quelqu'un de l'état primitif à celui de l'âme réprobatrice qui se blâme. Il est essentiel que le primitif prenne conscience que Dieu existe, et ce, à un point que d'une part, il ne considère pas sa création comme étant vaine, et d'autre part, que la connaissance qu'il a de Dieu puisse stimuler l'épanouissement de ses vraies qualités morales. C'est pour cela que Dieu a attiré l'attention des hommes sur l'importance de connaître Dieu et les a clairement informés que tout acte et geste moral a ses effets qui vont aboutir soit au réconfort spirituel, soit à la peine spirituelle, effets qui se manifesteront plus clairement dans l'au-delà. En bref, à l'étape de l'âme réprobatrice qui se blâme, l'homme est investi de tant de raisons, d'entendement et de bonne conscience qu'il se réprouve lui-même à l'égard du mal qu'il a commis et qu'il désire ardemment faire le bien. C'est à cette étape qu'une personne développe en elle-même de hautes qualités morales. La différence entre khalq et khulq. Il y a dans le terme khalq l'idée de création physique et dans celui du khulq de création interne. Vu que la création interne est parachevée par le développement de la moralité et non simplement par la mise en jeu des pulsions naturelles, le terme khulq suggère plutôt la notion de qualité morale que de pulsion naturelle. L'on devrait souligner que la pensée populaire selon laquelle la moralité ne se résume qu'à la douceur, la courtoisie et l'humilité est entièrement erronée. La vérité est que, correspondant à chaque action physique, il y a une qualité interne, dite qualité morale. Par exemple, à l'acte physique de verser des larmes correspond la qualité interne appelée la tendresse, qui va prendre le caractère de qualité morale lorsqu'elle est mise en œuvre sous la gouverne de la raison au moment opportun. De même, à l'acte de se défendre face à une agression physique, correspond la qualité interne appelée la bravoure. Lorsqu'au moment opportun et à l'occasion appropriée, cette qualité est mise en jeu, elle devient une qualité morale. De la même manière, à l'acte de vouloir libérer l'opprimé du joug des tyrans, ou de pourvoir aux besoins de l'indigent ou de l'affamé, de servir ses semblables d'une autre façon quelconque correspond la qualité interne appelée la pitié. Parfois, il arrive qu'on punisse un malfaiteur, et correspondant à cela, il y a la qualité interne, appelée la vengeance. Parfois, l'on refuse de riposter à l'agression de quelqu'un et l'on s'abstient de toute action contre lui. À cela correspond la qualité interne, appelée la patience, la tolérance ou l'endurance. Parfois, l'on fait usage de ses mains, pieds, esprit, intelligence ou richesse pour promouvoir le bien-être de ses semblables, et la qualité correspondante s'appelle la bienveillance. Ainsi, lorsque toutes ces qualités sont mises en jeu, eu égard à l'occasion et au moment, elles deviennent des qualités morales. En s'adressant au saint prophète, sur lui la paix et les bénédictions d'Allah, Dieu à lui la gloire a dit « Et tu possèdes assurément de hautes qualités morales. » Chapitre 68, verset 5. « Assurément, tu as d'excellentes qualités morales. » Cela signifie que toutes les grandes qualités morales telles que la bienveillance, le courage, le sens de la justice, la pitié, la munificence, la sincérité, la noblesse, etc., se confondaient en sa personne. En résumé, toutes les qualités naturelles de l'homme, à savoir la courtoisie, la modestie, l'intégrité, la bienveillance, la jalousie, la patience, la chasteté, la pitié, l'équité, la sympathie, la bravoure, la générosité, la tolérance, l'endurance, la munificence, la sincérité, la loyauté, etc., lorsqu'elles sont mises en jeu en temps et en lieu, sous la gouverne de la raison et de la pondération, seront prises pour des qualités morales. À vrai dire, ce sont les pulsions et qualités naturelles de l'homme qui, consciemment mises en œuvre au moment opportun, sont appelées des qualités morales. L'homme possède ce trait naturel qui l'incite à progresser et ainsi, en devenant l'adepte d'une vraie religion et en choisissant une compagnie saine et en se conformant à la sagesse, il transforme ses pulsions naturelles en qualités morales. Aucun animal ne possède cette particularité. Le premier type de réforme, les conditions naturelles de l'homme. Nous allons maintenant aborder la première des trois réformes préconisées par le Saint-Coran, à savoir celle qui a trait à l'état naturel de l'homme. Cette réforme s'intéresse tout particulièrement au code du savoir-vivre, c'est-à-dire aux réglementations régissant les qualités naturelles du primitif, quant à sa façon de manger et de boire, à son mariage, etc., pour l'amener à vivre en accord avec des mœurs socio-convenables et le faire dépasser l'existence animale. À cet égard, le Saint-Coran promulgue « Vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, les sœurs de vos pères, les sœurs de vos mères, les filles de votre frère, les filles de votre sœur, vos mères nourricières qui vous ont allaitées, vos sœurs de lait, les mères de vos femmes, vos belles-filles, qui sont vos pupilles, par les femmes avec lesquelles vous avez consommé le mariage. Mais si le mariage n'a pas été consommé, ce ne sera pas un péché pour vous. Et les femmes de vos fils, qui sont sortis de vos reins. Il vous est défendu d'avoir deux sœurs en même temps, en état de mariage, sauf si cela a déjà eu lieu. » Chapitre 4, verset 24. « Il vous est permis d'épouser des croyantes chastes, ainsi que des femmes chastes, de parmi celles qui reçurent avant vous le livre, lorsque vous leur donnez leur dot, contractant avec elles des mariages valides, ne forniquant pas et ne prenant point de concubines. Au temps de l'ignorance, certains Arabes qui n'avaient point de progéniture permettaient à leurs épouses d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre dans le but d'avoir un enfant. Le Saint-Coran interdit cela. L'expression « prendre des concubines » fait particulièrement allusion à cette pratique. Ensuite, il est dit « Ne vous suicidez pas, ne tuez point vos enfants. » Tels des primitifs, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres sans en avoir eu au préalable la permission, et lorsqu'il vous est permis d'y entrer, faites-le en saluant les occupants du salut de la paix. Si vous n'y trouvez personne, n'y entrez pas avant que le nous vous en donne la permission. Et si les occupants vous demandent de vous retirer, alors faites-le. N'entrez pas dans les maisons en escaladant les murs, faites-le en passant par la porte. Lorsqu'on vous salue, répondez-y avec un salut tout au moins égal, sinon meilleur. L'alcoolisme, le jeu de hasard, les idoles et les flèches divinatrices ne sont qu'abominations, œuvres de Satan. Évitez donc chacune de ces choses. Vous sont interdits la chair de l'animal mort de mort naturelle, et le sang et la chair de porc, et la chair de l'animal sur lequel le nom d'un autre qu'Allah aura été invoqué, et la chair de l'animal étranglé ou battu à mort, la chair de l'animal mort d'une chute ou tué d'un coup de corne, et celle d'un animal qui aura été partiellement dévoré par une bête sauvage, et celle d'un animal égorgé sur un autel, car tout cela n'est que charogne. Demande-t-il ce qui leur a été rendu licite ? Dis-leur, tous les aliments sains sont rendus licites pour vous. Évitez toutes les charognes, ou tout ce qui peut ressembler à de la charogne, ou tout ce qui est malsain. Lorsqu'il vous est demandé de faire de la place dans vos réunions, alors empressez-vous de la faire afin de permettre aux autres de s'asseoir. Et lorsqu'il vous est demandé de vous mettre debout, alors faites-le sans délai. Nourrissez-vous de tout ce qui est licite et sain, telle la viande, les légumes et les fèves, etc. Mais ne soyez point immodérés en aucun sens. Ne parlez pas pour ne rien dire, mais parlez avec précision. Portez des vêtements propres et faites en sorte que vos corps, vos rues et là où vous vous asseyez soient propres. Lavez-vous souvent et prenez l'habitude de maintenir vos maisons propres et bien rangées. Marchez d'une allure modérée, ni trop vite, ni trop lente, et parlez d'une voix bien timbrée, ni trop forte, ni trop basse, sauf quand cela s'avère nécessaire. Lorsque vous partez en voyage, munissez-vous de provisions nécessaires afin de ne pas avoir à mendier. Après avoir eu des relations sexuelles avec vos épouses, purifiez-vous en prenant un bain. Lorsque vous mangez, offrez-en à ceux qui vous en demandent. N'oubliez pas de nourrir les chiens, les oiseaux et les autres animaux également. Il n'y a point de mal à épouser les orphelines qui sont sous votre tutelle, mais si vous avez des doutes que vous ne pourriez être juste envers elles, parce qu'elles sont des orphelines, alors épousez les femmes qui ont leurs parents ou des tuteurs pour les surveiller, que vous respecterez et envers qui vous aurez des égards. Vous pourriez en épouser deux, trois ou quatre à condition d'être équitable envers elles. Mais si à votre avis vous ne pourriez être impartial dans votre relation avec elles, alors épousez-en une, même si vous ressentez le besoin d'en prendre plus d'une. Le nombre d'épouses est limité à quatre, et ce afin que vous ne soyez enclin à épouser un grand nombre de femmes, pouvant aller jusqu'à des centaines selon vos traditions anciennes, et que vous ne adonniez pas à des actes illicites, et donnez de plein gré leur dot aux femmes. Voilà la première phase de la réforme apportée par le Saint-Coran, où l'homme passe de son état naturel de primitif à celui d'un être sociable civilisé. Ces enseignements ne concernent point les qualités morales supérieures, mais s'intéresse plutôt au comportement élémentaire de l'homme. Comme nous l'avions déjà souligné, cet enseignement était d'autant plus nécessaire que les premiers intéressés par le message du Saint-Prophète, sur lui la paix et les bénédictions d'Allah, se trouvaient dans une condition d'extrême inhumanité et il s'avérait indispensable de leur enseigner les règles élémentaires du comportement social. Pourquoi l'interdiction de consommer le porc ? Il faut dans ce contexte se rappeler que dans le nom même de cet animal, Dieu a indiqué la raison pour laquelle la consommation du porc est interdite. Khinzir, le mot arabe désignant porc, est un mot contracté comprenant les éléments khinz et ara, dont le sens est « je le vois très malsain ». Ainsi donc, le nom même que Dieu donna à cet animal au tout début indique son état d'insalubrité. C'est une curieuse coïncidence que dans la langue hindi, cet animal soit appelé suar, mot contracté formé de deux éléments, su et ara. Ici également, le sens est « je le vois très mauvais ». Il n'y a rien d'étonnant à ce que le mot arabe su ait fait son chemin jusque dans la langue hindi. Nous avons démontré dans notre livre intitulé « Minnalur Rahman » que la mère de toutes les langues n'est autre que l'arabe et que chaque langue possède un grand nombre de mots arabes. Ainsi donc, « su » est un mot arabe et son équivalent en hindi est « bad ». Cet animal est également appelé « bad » en hindi. Sans doute qu'au temps où l'arabe était la langue universelle, cet animal portait dans ce pays un nom synonyme de « khinzir » et ainsi en est-il demeuré jusqu'à ce jour. Il est possible qu'en sanskrit, ce mot ait pu subir quelques changements, mais le mot originel, véritable, est « khinzir » car ce mot exprime son propre sens. Il n'est pas nécessaire de dresser un tableau détaillé sur l'état malsain et répugnant de cet animal. Il est connu de tous que cet animal se nourrit de saleté et qu'il est complètement impudique. Ainsi, la raison interdisant la consommation du porc est plus qu'évidente, d'autant que selon la loi de la nature, sa consommation aura un effet néfaste sur le corps et l'âme. Comme nous l'avons déjà démontré, les aliments exercent sur l'âme des influences et au-delà de toute présomption, la chair d'un animal si malsain ne peut être que malsaine. Au temps pré-islamique, les médecins grecs étaient d'avis que le porc corrodait la faculté de modestie et renforçait l'indécence chez l'homme. Pour des raisons similaires, la consommation de charognes est interdite par l'islam parce qu'elles exercent un effet nocif tant sur la santé physique que sur les qualités morales. L'animal étranglé ou battu à mort, dont le sang n'a pas été versé, ne diffère en point de la charogne. Il est évident que le sang, se dégradant rapidement, va corrompre la chair. Des recherches récentes ont mis en évidence l'existence de produits nocifs provenant de la dégradation du sang qui vont altérer la chair d'un tel animal. L'état moral de l'homme. Le second volet de la réforme proposée par le Saint-Coran s'intéresse à régler les conditions naturelles de l'homme de façon à les transformer en haute qualité morale. Ce sujet est très vaste. Si nous nous attelons à le traiter dans tous ses aspects, alors nous ne pourrons en couvrir qu'un dixième dans le temps qui nous est imparti. Aussi, en guide d'illustration, nous nous limiterons à quelques qualités morales seulement. Les qualités morales peuvent être divisées en deux grandes catégories. Primo, ces qualités morales qui permettent à un individu de se défaire du mal. Et secondo, ces qualités morales qui lui permettent de faire le bien. Le premier groupe comprend ces qualités en vertu desquelles un individu s'abstient non seulement de s'attaquer ou de faire du tort au bien, à l'honneur ou à la vie d'autrui, que ce soit par sa langue, ses mains, ses yeux ou par un autre membre quelconque, mais il se refuse aussi de concevoir le dessein de lui infliger un tel mal. Le deuxième groupe comprend toutes ces qualités morales qui permettent à quelqu'un, soit par sa langue, ses mains, son savoir ou par tout autre moyen, de faire du bien à autrui, qu'il s'agisse des biens ou de l'honneur de ce dernier, ou encore de faire du bien en faisant ressortir ou en mettant en évidence la grandeur ou l'honneur d'autrui, ou encore de faire du bien en ne tenant point compte d'un mal commis contre soi-même, épargnant ainsi à l'agresseur la punition qu'il mérite, qui est d'être châtié physiquement ou de subir l'imposition d'une amende ou autrement, ou bien de réserver à l'agresseur un châtiment qui n'est en réalité qu'un acte de miséricorde envers lui. Les qualités morales aidant à se défaire du mal. Dans la langue arabe, le Créateur a désigné par quatre noms les qualités morales aidant à se défaire du mal. Il a souligné que la langue arabe possède pour chaque concept, comportement et qualité morale, un mot spécifique et précis. La première de ces qualités s'appelle ihsan, c'est-à-dire la chasteté. Ce terme désigne la vertu liée à la faculté de la procréation. Ils seront considérés chastes, ces hommes et ces femmes, qui s'abstiennent non seulement de plaisirs charnels jugés illicites, mais également des préliminaires pouvant y conduire. Les conséquences néfastes en sont la disgrâce et l'humiliation dans ce monde-ci, le châtiment dans l'au-delà, sans oublier l'infamie et la tourmente que subit la famille. Soit un homme qui fait des avances à l'épouse d'une tierce personne, sans pour autant commettre l'acte d'adultère, mais entame tout de même les préliminaires y conduisant, dans ce cas précis, le mari qui se respecte se trouvera forcément dans l'obligation de divorcer avec sa femme, car cette dernière a toléré les avances sans les repousser. Les enfants également vont souffrir de cette infamie et le mari aura à endurer cette souffrance à cause de l'inconduite d'un malfrat. L'on doit se rappeler que la mise en œuvre de cette vertu, c'est-à-dire la chasteté, exige que le protagoniste soit apte à commettre le vice qu'est l'adultère. Si pour une raison quelconque, notamment soit qu'il soit en bas âge, impuissant, eunuque ou à un âge fort avancé, l'on ne pourra point lui accorder le mérite d'être chaste. Il existe chez ce dernier une condition naturelle de chasteté, mais comme nous l'avons maintes fois souligné, les conditions naturelles ne peuvent en aucun cas être assimilées à des qualités morales. Les conditions naturelles se muent en qualités morales lorsqu'elles sont mises en jeu dans des situations données et précises sous la gouverne de la raison. Ainsi les enfants, les impuissants sexuels et ceux qui souffrent d'un manque à ce niveau ne peuvent être accrédités d'être chastes, bien qu'en apparence ils mènent une vie chaste. Dans tous ces cas, la chasteté n'est qu'une manifestation de l'état naturel. Comme ce vice concerne à la fois les hommes et les femmes, les directives du Saint-Coran touchent les deux groupes. Et dans ce contexte, le Saint-Coran enseigne. Dit aux croyants de soustraire à leur regard les femmes qui leur sont interdites afin de ne pas éveiller en eux-mêmes les passions sexuelles. et qu'ils cultivent l'habitude de protéger leur regard. Qu'ils protègent en fait tous les sens qu'ils possèdent. Par exemple, qu'ils s'abstiennent d'écouter les voix attirantes et séduisantes des femmes qui leur sont interdites. Qu'ils s'abstiennent également d'écouter la description de leur charme. C'est une très bonne façon de préserver la pureté du regard et du cœur. De la même manière, le Saint-Coran enseigne aux croyantes de soustraire à leur regard les hommes qui leur sont interdits et qu'elles n'écoutent pas leur voix passionnée, qu'elles cachent leur charme tout en évitant de les exhiber à quiconque ne jouit pas de ce privilège, qu'elles se drapent la poitrine de leur châle tout en couvrant leur tête, oreilles et tempes, qu'elles ne frappent pas le sol de leurs pieds comme le font les danseuses. Ce sont là des directives qui protègent contre le trébuchement moral. Le deuxième moyen est de s'en remettre à Dieu le Très-Haut en invoquant sa protection contre les faiblesses et manquements afin de ne point succomber. Il vous est également prescrit « N'approchez pas de l'adultère ». Cela sous-entend que l'on doit s'écarter de tous ceux qui pourraient incliner l'esprit vers l'adultère. Toutes les voies pouvant y conduire doivent être coupées. Celui qui donne libre cours à ses passions adultères plonge au plus profond de l'immoralité. L'adultère est néfaste car il vous empêche d'atteindre votre but. L'adultère est un mal profond qui vous éloigne de votre raison d'être. Ceux qui n'ont pas les moyens de se marier doivent préserver leur chasteté en adoptant d'autres moyens, tels le jeûne, un régime approprié ou de l'exercice physique. Le célibat, la castration ou le monachisme sont parfois adoptés par certaines personnes en vue de préserver leur chasteté. Le monachisme n'a pas été prescrit par Dieu et c'est pour cela que ceux qui s'y adonnent n'arrivent pas à s'y conformer vigoureusement. Il est une preuve suffisante que si Dieu avait imposé la pratique du célibat et du monachisme, alors forcément, tout le monde l'aurait adopté, dans lequel cas la race humaine se serait éteinte, il y a de cela fort longtemps. De même, si pour sauvegarder la chasteté, l'on aurait dû avoir recours à la castration ou à d'autres méthodes similaires, cela reviendrait en définitive à blâmer Dieu d'avoir octroyé cette capacité à l'homme. Il n'y a de mérite que lorsqu'il y a gestion intelligente d'une capacité donnée. Sa suppression n'aboutit à rien. En effet, il n'y a de mérite que lorsqu'on refuse par crainte de Dieu, à un moment inopportun, de mettre en jeu une capacité donnée, et ce faisant, en tirer un double profit. La destruction de la capacité priverait l'individu d'un double profit. Posséder une capacité ou une aptitude quelconque et régler intelligemment sa mise en jeu conditionne l'existence du mérite. Quel mérite peut-on accorder à un individu qui a perdu cette capacité et qui est devenu comme un enfant? Un enfant mérite-t-il d'être récompensé de cette chasteté? 5 remèdes contre la lascivité. Dans ces versets, Dieu le Très-Haut a non seulement élucidé les excellents enseignements qui aident à acquérir la chasteté, mais il a également fourni 5 remèdes contre la lascivité. Ce sont de soustraire du regard les personnes interdites, d'exercer un contrôle sur la faculté de l'ouïe, et de ne point écouter les voix sensuelles et la description des charmes et attraits physiques, d'éviter toute occasion qui pourrait inciter l'esprit vers ce vice, et durant la période de célibat, de se maîtriser en pratiquant le jeûne, en adoptant un régime approprié, etc. Nous pouvons en toute confiance affirmer que cet excellent enseignement du Saint-Coran, avec ses annexes, est propre à l'islam. Il est à retenir que l'état naturel de l'homme, source des passions naturelles, est constitué de telle façon que l'homme ne peut s'en départir complètement sans avoir au préalable apporté un changement radical en lui-même. Aussi, lorsqu'il est confronté à des situations qui l'incitent vers ce vice, les passions s'éveilleront forcément, le mettant ainsi en péril. Dieu le Très-Haut ne nous a pas autorisé de regarder librement les femmes qui nous sont interdites, d'admirer leur charme et de suivre avec intérêt leurs pas de danse, etc., à condition de le faire avec un regard pur. Ni ne nous a-t-il permis d'écouter leur voix mélodieuse lorsqu'elles chantent, d'écouter la description de leur charme, à condition de le faire avec une intention pure. Au contraire, nous avons été formellement ordonnés de ne pas regarder leur charme, que ce soit avec une intention pure ou non, et de ne pas écouter leur voix mélodieuse ou la description de leur charme, que ce soit avec une intention pure ou non. Nous avons été ordonnés de nous en écarter complètement, tout comme nous nous écartons de la charogne, afin de ne pas succomber moralement. Il est tout à fait certain que laisser errer librement nos regards nous amènerait à succomber tôt ou tard, vu que Dieu le Très-Haut désire que nos yeux, nos cœurs, nos membres, ainsi que tous nos organes demeurent purs, il nous a donné ce parfait enseignement. Il n'y a point de doute que les regards libres de tout contrôle sont un danger latent. Si de la nourriture est présentée à un chien affamé, ce serait le comble de la naïveté de prétendre qu'il n'y ferait pas attention. Ainsi Dieu le Très-Haut souhaite que les facultés humaines ne soient pas exposées à tout ce qui peut les stimuler dangereusement, même en secret. Telle est la philosophie qui sous-tend l'enseignement islamique réglementant le port du voile. Le livre de Dieu ne vise pas à tenir la femme en réclusion, comme le pensent ceux qui sont mal avisés sur les usages islamiques. L'objectif de ces règles est d'apporter les hommes, ainsi que les femmes, à exercer un contrôle sur leur regard, afin qu'ils ne les laissent pas errer librement dans tous les sens, et ensuite de les restreindre à ne pas exhiber leur charme et attrait physique, car c'est en cela que réside leur bien. Imposer des limites à son regard et le diriger uniquement vers ce qui est licite est décrit dans la langue arabe par l'expression « radol basar », expression utilisée dans le Saint-Coran. Il n'est pas dans l'intérêt d'une personne pieuse qui veut garder son cœur pur de laisser errer librement son regard dans toutes les directions, tel l'animal. Il lui est indispensable de cultiver l'habitude de radol basar dans ses rapports sociaux. C'est une attitude bénie qui transforme les pulsions naturelles de l'homme en haute qualité morale, sans pour autant le contraindre dans sa vie sociale. C'est cela la chasteté en islam. Sous le chapitre des qualités morales aidant à se défaire du mal, la deuxième qualité s'appelle honnêteté ou intégrité, c'est-à-dire la faculté de par laquelle on ne peut supporter l'idée de s'approprier malhonnêtement ou frauduleusement des biens d'autrui. L'intégrité est une des qualités naturelles de l'homme. C'est pour cette raison que le nourrisson qui obéit encore à ses instincts et qui n'a pas encore acquis de mauvaises habitudes éprouve une telle répugnance à l'égard des choses qui ne lui appartiennent pas qu'il est difficile de le persuader d'être allaité par une nourrice. L'enfant acceptera très difficilement le sein de la nourrice si cette dernière ne commence pas à l'allaiter lorsqu'il est encore très jeune et dans une certaine mesure inconscient. La répugnance éprouvée par l'enfant à cette occasion est naturelle. Cette répugnance, parfois la cause d'une très grande souffrance chez l'enfant, peut dans des cas extrêmes le pousser aux abords de la mort. Pourquoi cette répugnance ? La réponse est toute simple. L'enfant, de manière naturelle, ne supporte pas d'être séparé de sa mère. Il ne peut se contenter de quelque chose qui n'appartienne pas à sa mère. Lorsqu'on réfléchit profondément sur ce sujet, il devient clair que cette habitude se trouve à l'origine de la qualité morale que sont l'honnêteté et l'intégrité. On ne peut dire de quiconque qu'il est honnête tant qu'il n'a pas développé de la répugnance à l'égard de l'appropriation des biens d'autrui, tel le cas du nourrisson. Mais ce dernier n'use pas de cette habitude à bon escient, ce qui le pousse à en souffrir en conséquence. Cette habitude, qui est un acte involontaire, est une attitude naturelle de l'homme. On ne peut la qualifier de qualité morale, bien qu'elle en soit l'origine. Tout comme on ne peut dire du nourrisson qu'il est religieux et responsable, rien que parce qu'il a cette habitude, de la même manière on ne peut dire de celui qui ne gère pas cette habitude sous la gouverne de la raison qu'il est intègre. Acquérir la probité et être digne de confiance est une affaire délicate. On ne peut être honnête et intègre tant qu'on n'observe pas toutes les conditions qui s'y attachent. Dans les versets suivants du Saint-Coran, Dieu le Très-Haut nous a enseigné les diverses facettes de l'honnêteté. Se reporter au chapitre 4, versets 6 à 7 et versets 10 à 11. S'il y a parmi vous un orphelin ou un mineur possédant des biens, et qu'en raison de son immaturité d'esprit, il risque de dilapider ses biens, alors prenez-en la charge en tant que tuteur, et ne les lui remettez pas, car pour les faire fructifier, il est essentiel de bien les gérer. Soutenez-le financièrement avec les revenus acquis au moyen de ses biens, et donnez-lui une bonne éducation pour le rendre intelligent et entreprenant. S'il est le fils d'un commerçant, il serait peut-être bon de l'initier aux affaires. Si le père a une autre occupation, agissez en fonction, en tenant compte des aptitudes de l'enfant. Et de temps à autre, faites-lui subir des épreuves afin de mesurer ses progrès. À sa majorité, c'est-à-dire vers les 18 ans, lorsque vous constatez qu'il a acquis suffisamment de savoir pour gérer ses propres biens, alors remettez-les lui. Ne dilapidez pas leurs biens pensant qu'à leur majorité, ils vous en priveraient. Si le tuteur est dans l'aisance, qu'il gère gratuitement les biens de l'orphelin. Mais s'il est pauvre, qu'il en utilise une juste proportion. Selon les coutumes arabes, les tuteurs utilisaient les biens de l'orphelin en guise de capital dans des activités commerciales. Les recettes produites servaient à pourvoir aux besoins de l'orphelin. Ainsi, le capital demeurait intact. Le tuteur prélevait des frais de gestion sur les biens. Les versets cités plus haut font en fait allusion à ce système. De plus, le Saint-Coran enseigne « Lorsque vous remettez aux propriétaires leurs biens, faites-le en présence de témoins, que ceux susceptibles de laisser après leur mort des enfants mineurs ne prennent pas des dispositions testamentaires qui soient injustes pour les enfants. Ceux qui s'approprient des biens des orphelins ne consomment que du feu, et ils entreront dans un feu brûlant. Dans ces versets, plus d'un aspect de l'honnêteté nous a été présenté par Dieu le Tout-Puissant. Quelqu'un de vraiment honnête garde toujours à l'esprit ces divers aspects. S'il ne le fait pas avec intelligence, alors l'honnêteté qu'il affichera sera teintée de malhonnêteté. Ensuite, le Saint-Coran enseigne « N'escroquez pas vos biens mutuellement et ne les offrez pas en pot de vin aux autorités de façon à escroquer délibérément et injustement une partie des biens d'autrui. Confiez à qui de droit la présidence des affaires. Allah n'aime pas les perfides. Mesurez justement lorsque vous mesurez et utilisez une balance juste pour la peser. Ne diminuez pas leur dû et ne troublez pas la paix sur la terre. Cela signifie qu'il vous est interdit de parcourir la terre avec le dessein malsain de commettre un délit de vol, de cambriolage, de vol à la tire ou de vous approprier des biens d'autrui par des moyens illicites. Ne remettez rien de défectueux en échange de ce qui est bon. Vu que le vol est illicite, la vente de produits défectueux en faisant croire qu'ils sont en bon état, de même que l'échange des produits défectueux contre ceux qui sont bons, sont interdits et déclarés illicites. Dans ces versets, Dieu a présenté de façon si détaillée et complète les diverses pratiques malhonnêtes qu'il est difficile d'en rencontrer d'autres. Dieu ne s'est pas simplement contenté d'interdire le vol, car il se peut qu'une personne insensée puisse prétendre que bien que le vol soit interdit, les autres moyens malhonnêtes de s'approprier des biens sont cependant licites. Interdire tous les moyens malhonnêtes de manière globale, voilà la vraie sagesse. En résumé, si une personne ne satisfait pas toutes les conditions rattachées à la probité, et ce dans ses moindres détails, elle ne pourra être considérée comme honnête, même si en certaines occasions elle agit honnêtement. En ces occasions, c'est son état naturel, où tout jugement discriminatoire et discernement sont absents. Dans la langue arabe, la troisième qualité morale, aidant à se défaire du mal, s'appelle udna ou aun, qui a le sens de se retenir, de faire du mal physiquement à son prochain, d'être en d'autres mots inoffensif et de se comporter paisiblement. Sans conteste, être paisible est une grande qualité morale, essentielle pour le bien-être de l'humanité. L'instinct naturel correspondant qu'on rencontre chez le nourrisson et qui se transforme en qualité morale lorsque maîtrisé adéquatement est l'attachement. Il est évident que dans son état naturel, l'homme est incapable de concevoir ce que c'est qu'être paisible ou au contraire, ce que c'est qu'être rancunier. À l'origine de la qualité d'être paisible se trouve l'instinct naturel d'attachement, mais vu que ce dernier n'est pas mis en jeu sous le couvert de la raison, de la réflexion ou de la délibération, on ne peut le prendre pour une qualité morale. Il acquiert la valeur de qualité morale lorsque quelqu'un se fait volontairement inoffensif, manifestant cette qualité en temps et lieu et refusant de l'exercer dans des occasions inopportunes. À ce sujet, Dieu nous enseigne. Essayez de promouvoir un climat d'accord entre vous. La paix est ce qu'il y a de mieux. Penche-t-il vers la paix? Alors vous aussi faites-en autant. Les vrais serviteurs du Très-Gracieux marchent avec humilité sur la terre. Et lorsqu'ils tombent sur quelque chose de futile, qui peut dégénérer en querelle, ils passent leur chemin avec dignité. C'est-à-dire, ils ne vont pas se disputer pour peu de choses. Et ils ne vont pas faire de broutilles, pouvant dégénérer en un grand mal. Une raison pour se quereller. L'expression « larwa » employée dans le verset signifie « prononcer des paroles méchantes » ou « faire des choses qui provoquent peu de préjudice ou de mal ». Être paisible sous-entend que l'on doit fermer les yeux sur ces choses futiles et se comporter dignement. Cependant, si la conduite de quelqu'un porte atteinte à la vie, au bien ou à l'honneur d'autrui, alors la qualité morale qui doit intervenir dans ce cas précis n'est pas celle d'être paisible, mais plutôt celle de la patience ou de la tolérance que nous évoquerons s'il plaît à Dieu plus tard. Si quelqu'un devait se comporter méchamment à votre égard, alors essayez de le repousser par la paix, et ainsi il se pourrait que lui, votre ennemi, devienne votre ami chaleureux. En résumé, pour être paisible, il faudrait fermer les yeux sur ces choses agaçantes mais futiles, qui ne font que peu de mal, et qui se limitent plus ou moins à des paroles insensées envoyées en l'air. La quatrième qualité morale, aidant à se défaire du mal, est la courtoisie ou le doux parler. L'instinct naturel qui se trouve à l'origine de cette qualité morale est la bonne humeur. Avant que l'enfant ne parle, Sa bonne humeur sert de substitut à la sous-courtoisie ou au doux parler. Cela indique que la courtoisie tire son origine de la bonne humeur, qui elle-même, comme nous l'avons dit, est une qualité naturelle. Mais lorsque cette dernière est mise en œuvre à l'occasion appropriée, elle se transforme en qualité morale. Dieu nous enseigne à cet égard. Parle aux gens avec bienveillance. Qu'un peuple ne se moque pas d'un autre. Il se peut que ce dernier soit meilleur que lui. Qu'un groupe de femmes ne se moque pas d'un autre. Il se peut que ce dernier soit meilleur que le premier. Ne diffamez pas vos congénères et ne leur donnez pas des sobriquets. Évitez d'avoir trop de soupçons. Aussi, n'espionnez pas et ne médisez pas non plus les uns les autres. N'accusez personne de ce dont vous n'avez aucune preuve. Et souvenez-vous que tous les membres du corps, y compris l'oreille, l'œil et le cœur, seront appelés à rendre des comptes. Les qualités morales aidant à faire le bien. Ayant terminé l'exposé sur les qualités morales aidant à se défaire du mal, nous nous tournons à présent vers la deuxième catégorie de qualités morales, celle qui aide à faire le bien. La première en est la patience ou le pardon. Celui qui fait souffrir un autre en lui faisant du tort mérite d'être puni. Et cela peut se faire de deux façons, soit directement par la victime, soit à travers le système judiciaire en lui infligeant une peine de prison ou une amende. Si cela s'avérerait approprié, le pardonné aurait pour but de lui faire du bien. À cet égard, le Saint-Coran enseigne. Ceux qui retiennent leur colère lorsqu'elle monte et qui ferment les yeux sur les fautes des gens lorsque cela est juste, la punition d'un mal doit être proportionnelle au mal. Mais celui qui pardonne et apporte par là la réforme du coupable, sans qu'il y ait risque de récidive du mal, c'est-à-dire celui qui pardonne à bon escient, recevra sa récompense d'Allah. Le Saint-Coran, chapitre 17, verset 37 et chapitre 3, verset 135. Ces versets démontrent que le Saint-Coran ne nous enseigne pas de toujours fermer les yeux sur le mal en toutes circonstances, ou encore que les malfaiteurs et autres scélérats ne doivent jamais être punis. Sa philosophie est que l'on doit peser le pour et le contre, voir si l'occasion exige le châtiment ou le pardon, et adopter la solution qui serait la meilleure, tant pour l'inculpé que pour le public. Parfois, le pardon amène le malfaiteur à abandonner le mal. Parfois, il empire la situation en incitant le malfaiteur à commettre davantage de torts. C'est non sans cause que Dieu le Tout-Puissant nous a ordonné de ne pas développer cette habitude de tout pardonner aveuglément. Au contraire, il nous a conseillé de voir laquelle des solutions, à savoir le châtiment ou le pardon, serait la plus souhaitable et d'agir en conséquence. Ce faisant, l'acte devient vertu. Certaines personnes sont si vindicatives que de génération en génération, elles n'oublient pas les crimes et injures commis contre leurs ancêtres. À l'encontre de cela, il y a celles qui tolèrent et pardonnent à de tels extrêmes qu'on dirait qu'elles ont toute honte bu. Leur faiblesse, pardon et tolérance sont totalement incompatibles avec le sens de la dignité, de l'honneur, de la jalousie, voire de la chasteté. Leur attitude est une tache à leur réputation et le résultat final de leur pardon est le dégoût suscité chez les gens. C'est la raison pour laquelle le Saint-Coran a imposé à chaque qualité morale la condition qu'elle soit manifestée en temps et en lieu et il n'approuve pas la mise en jeu d'une telle qualité dans des moments inopportuns. L'on doit se rappeler que le pardon n'est pas une qualité morale en soi. Il est une pulsion naturelle qu'on rencontre également chez l'enfant. Un enfant oublie rapidement le mal qu'on lui fait, même si cela est intentionnel. Très vite, il se rapprochera avec amour de la personne qui lui a fait ce mal, même si cette personne a des intentions meurtrières, tant captivé est-il par les paroles charmantes de la lutte. Il est clair que le pardon de cet enfant n'est en aucune manière une qualité morale. Il devient qualité morale lorsqu'il est exercé en temps et en lieu, sinon il n'est qu'une pulsion naturelle. Ils sont peu nombreux les gens qui arrivent à différencier entre une pulsion naturelle et une qualité morale. Nous avons à maintes reprises souligné cette différence. Une qualité morale est définie par sa conformité au principe de sa manifestation en temps et en lieu, alors qu'une pulsion naturelle n'apparaît pas toujours à des moments opportuns. Il est connu que la vache est inoffensive, tandis que la chèvre est soumise. Cependant, on ne peut prétendre que ces animaux ont des qualités morales car elles ne sont pas douées du jugement qui leur permettrait d'apprécier le principe de la mise en jeu des qualités morales en temps et en lieu. La sagesse divine et son livre parfait ont apposé à chaque qualité morale ce principe afin de la rendre effective. La deuxième qualité morale qu'on rencontre dans cette catégorie est le sens de l'équité, la troisième c'est la bienfaisance et la quatrième c'est la bonté, celle qui existe entre proches. Dieu, à lui la gloire, a dit « En vérité, Allah enjoint la justice et la bienfaisance envers autrui, et de donner pour sa cause comme on le fait à des proches parents, et interdit l'indécence, et le mal manifeste, et la transgression. Chapitre 16, verset 91. Cela signifie que Dieu nous ordonne de rendre le bien pour le bien, d'être bienfaisant lorsque cela est nécessaire, et de faire le bien avec une volonté naturelle, comme on le ferait si on avait affaire à des proches, et ce, quand cela s'avère nécessaire et approprié. Dieu le Tout-Puissant vous interdit la transgression ou encore de faire montre de la bienfaisance inopportunément ou encore de ne pas faire montre de la bienfaisance lorsque cela s'avère nécessaire. Ou encore de manquer à pratiquer la bonté telle qu'il se fait entre les proches parents lorsque cela est opportun ou encore de pratiquer la bonté en dehors de ses justes limites. Ce verset présente trois échelons dans la pratique du bien. Le premier échelon est celui de rendre le bien pour le bien. Une personne de capacité moyenne peut facilement atteindre ce premier échelon où il arrive à rendre le bien pour le bien qu'on lui a fait. Le deuxième échelon est un peu plus difficile à gravir. Ici, il est question de prendre l'initiative à faire le bien par pure générosité. La plupart des gens sont bienfaisants à l'égard des pauvres, mais il y a toutefois un point faible à cette bienfaisance, en ce sens que ces gens-là sont fortement conscients de leur bienfaisance. En conséquence, ils espèrent jouir en retour de la gratitude ou de la prière des pauvres. Si à aucun moment le récipiendaire de sa bienfaisance se retournait contre lui, il le taxerait d'ingrat. Des fois, il lui rappelle sa générosité, ou encore des fois, il lui impose des fardeaux insoutenables. Dieu le Tout-Puissant a ainsi réprimandé les bienfaiteurs. « Ne rendez pas vaines vos aumônes, en faisant des reproches et des injures. » Chapitre 2, verset 265. Le mot arabe pour aumône, sadaqa, est dérivé de la racine sitr, qui signifie « sincérité ». Si vous n'êtes pas inspiré par la sincérité au moment de faire l'aumône, alors ce n'est plus de l'aumône, mais de l'ostentation. C'est la raison pour laquelle Dieu le Tout-Puissant a réprimandé les bienfaiteurs de ne rendre vaine leur bienfaisance par des reproches et des injures. Le troisième et dernier échelon est celui de la bonté, celle qu'on voit intervenir entre proches. Dieu nous enseigne qu'à ce niveau, la conscience d'être bienfaisant ou d'attendre quelque chose en retour doit disparaître. Ici, le bien doit être fait avec la cordialité naturelle, telle que celle qui existe entre la mère et l'enfant. C'est l'ultime échelon où le bien est fait avec perfection. Il faut toutefois préciser que Dieu le Tout-Puissant a imposé sur les trois échelons la condition d'agir en temps et en lieu. Le verset cité plus haut indique clairement que si ces vertus ne sont pas pratiquées opportunément, elles cesseront alors d'être des vertus, mais deviendront des maux. Par exemple, si le sens de l'équité dépassait ses limites, cela deviendrait malsain et constituerait un affront à la décence. On pourrait en dire autant de la bienfaisance, qui, mal pratiquée, s'opposerait à la raison et à la conscience, de la bonté également, qui ne serait plus une vertu, mais une transgression. Le mot arabe utilisé pour transgression est bari. Il fait allusion à une pluie torrentielle qui détruit tous les produits agricoles. Ainsi, le manque ou l'excès dans l'accomplissement des obligations sont toutes les deux qualifiées de bari. En un mot, la mise en jeu de manière inopportune de quelconque de ces trois qualités morales finit par la corrompre. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de tenir compte de la condition d'agir en temps et en lieu. L'on doit se rappeler que l'équité, la bienfaisance ou la bonté entre proches n'est pas une qualité morale en soi. Ce sont là des conditions naturelles de l'homme que l'enfant également arrive à déployer avant qu'il n'atteigne l'âge de la raison. La raison, le discernement, est un paramètre important dans la définition d'une qualité morale et l'autre condition essentielle à satisfaire est celle de la déployer en temps et en lieu. Le Saint-Coran nous donne de nombreuses autres directives concernant la bienfaisance et elle souligne toute la nécessité de manifester cette qualité en temps et en lieu. Il est dit « Ô vous les croyants, dépensez avec générosité, bienfaisance ou charité ces biens que vous avez acquis honnêtement, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été acquis par le vol, des pots de vin, des combines, l'arnaque, ou l'escroquerie. Ne donnez pas en aumône ses biens ou choses inutiles ou défectueuses. Ne rendez pas vaines vos aumônes en faisant des reproches et des injures, c'est-à-dire ne rappelez à personne que vous l'avez aidé et ne lui faites aucun reproche car cela invaliderait votre acte charitable et ne dépensez pas votre argent simplement par ostentation. Soyez serviable à l'égard de vos congénères car Allah aime ceux qui sont bienfaisants. Ceux qui sont vraiment vertueux boiront une coupe tempérée de camphre. L'allusion au camphre indique que leurs cœurs seront purifiés de la concupiscence. Le mot camphre en arabe kafour, dérivé de kafara, qui signifie supprimer ou recouvrir, cela indique que leurs viles émotions seront supprimées et ils seront purifiés, jouissant d'un meilleur sens discriminatoire. Ensuite, il est dit qu'ils boiront d'une source qu'ils feront eux-mêmes jaillir de la terre par leurs efforts. Il est ici question d'un grand secret expliquant la philosophie du paradis, que celui doué d'intelligence le comprenne. Les vraiment vertueux nourrissent, pour l'amour d'Allah, les indigents, les orphelins et les captifs, avec la même nourriture qu'ils consomment eux-mêmes en les assurant. Nous ne vous mettons sous aucune obligation, mais nous vous donnons à manger simplement pour l'amour d'Allah. Nous n'attendons rien de vous, ni même vos remerciements. Les vertueux susmentionnés sont au troisième échelon de la bienfaisance, celui qui procède de la pure sympathie. Les vrais vertueux ont l'habitude de dépenser leur argent pour l'amour de Dieu sur leurs proches, à élever et à éduquer les orphelins, à pourvoir aux besoins des pauvres, à aider les voyageurs, les nécessiteux, à rançonner les captifs et à remplir les obligations de ceux qui sont endettés. Ils sont ni extravagants ni avares, mais adoptent une juste mesure entre les deux. Ils unissent ce qu'Allah a commandé d'unir et ils craignent leur Seigneur. Dans leur bien, il y a une part pour ceux qui mendient et une part pour ceux qui ne peuvent demander. Le groupe de ceux qui ne peuvent demander comprend les animaux, tels les chiens, les chats, les oiseaux, les bœufs, les ânes, les chèvres, etc. Lorsqu'il y a pénurie ou famine, ils n'arrêtent pas de dépenser, mais continuent à le faire, selon leurs moyens. Ils font la charité secrètement et ouvertement, secrètement de façon à les protéger contre l'ostentation et ouvertement de façon à donner l'exemple aux autres. Ce qui a été retenu pour l'aumône doit être dépensé, selon leurs besoins, sur les pauvres, les nécessiteux, ceux engagés dans la collecte et la distribution de l'aumône, ceux qui doivent être secourus de quelque mal à rançonner les esclaves, sur les durement endettés et les affligés, et sur ceux qui œuvrent dans la voie d'Allah. Vous ne pourrez atteindre le point culminant de la vertu tant que vous ne dépensez pas pour le bien de vos congénères cette partie de vos biens que vous tenez à cœur. Donnez à l'indigent, aux nécessiteux et aux voyageurs son dû et méfiez-vous de l'extravagance. Cette directive vise à restreindre les gens de faire des dépenses superflues à l'occasion des mariages, des naissances et sur ce qui est un luxe, etc. Soyez bons envers vos parents, vos proches, les orphelins, les nécessiteux, le voisin qui vous est apparenté, le voisin qui ne l'est pas, le voyageur, les serviteurs, les chevaux, le bétail et les autres animaux que vous possédez. Voilà ce qu'Allah, votre Dieu, aime. Il n'aime pas ceux qui sont négligents, égoïstes et avares, qui encouragent l'avarice, cachent leurs biens et disent aux nécessiteux qu'ils n'ont rien à leur offrir. Le courage véritable, la condition naturelle de l'homme qui s'apparente au courage est la témérité. On la voit aisément chez l'enfant qui, sans crainte, plonge les mains dans le feu. Dans cette condition, il n'apprécie pas le danger. L'homme peut attaquer de front les tigres et les autres animaux de la forêt, tout comme il est capable de se battre contre une multitude de gens. Une telle personne est considérée comme étant très brave. Mais cela n'est qu'une condition naturelle qui existe également chez les animaux sauvages et les chiens. Le véritable courage, celui qui a une haute qualité morale, doit se conformer aux exigences du temps et lieu. À ce propos, la sainte parole de Dieu nous enseigne « Ceux qui sont inébranlables dans l'adversité, la détresse et la guerre, ils sont inébranlables parce qu'ils veulent voir la face d'Allah et non pas parce qu'ils veulent faire étalage de leur bravoure. On leur fait la menace que des gens se sont assemblés pour les persécuter et de ce fait, ils doivent ressentir de l'appréhension. » Mais au contraire, cela leur renforce la foi, et ils disent « Allah nous suffit ». Ainsi, leur courage ne ressemble pas à celui des chiens et des animaux sauvages qui procèdent de leur passion naturelle et qui est unidirectionnel. Le courage des justes est bidirectionnel et comporte deux aspects. Soit les justes utilisent leur courage pour se battre contre eux-mêmes, pour dominer leur passion et colère, soit lorsqu'ils jugent juste de combattre un ennemi et s'élancent contre ce dernier, poussés non pas par la colère, mais en vue de faire triompher la vérité. Ils ne dépendent pas d'eux-mêmes, mais font plutôt confiance à Dieu, se comportant courageusement. Ils ne s'élancent pas de leur maison avec insolence, de façon à être vus par les gens. Leur seul but est l'amour de Dieu. Ces versets montrent que le vrai courage tire son origine de la patience et de la fermeté. Tenir tête à ses passions ou à un malheur qui frappe tel un ennemi et ne pas déguerpir tel un lâche du champ de bataille. Voilà le véritable courage. Ainsi, il y a une grande différence entre le courage d'un homme et celui d'une bête sauvage. Une bête sauvage ne bouge que dans une direction, à savoir la confrontation. Mais l'homme réellement courageux donne son choix soit à la confrontation ou à la non-confrontation, mais toujours de façon appropriée selon les circonstances. La véracité. La véracité est une qualité naturelle de l'homme. En temps normal, à moins d'avoir une raison intéressée, l'homme ne ment pas. Il hait le mensonge et réprouve l'idée d'y avoir recours. Il se fâche naturellement contre quelqu'un qui ment et en fait, il le méprise. Néanmoins, on ne peut dire de cette inclination naturelle qu'elle ait une qualité morale. Même les enfants et les fous sont capables d'en faire autant. L'essentiel donc est la raison intéressée du recours au mensonge. Il faut s'en défaire si l'on veut être véridique, au sens réel du mot. Si quelqu'un adhère à la vérité lorsqu'il ne court aucun danger, mais ment lorsque son honneur, sa vie et ses biens sont mis en péril, alors il ne diffère point de l'enfant ou du fou. Car n'est-il pas vrai que l'enfant et le fou disent également des vérités de cette sorte? Il n'y a pratiquement personne au monde qui dirait un mensonge si l'on n'avait pas une raison particulière. Il est immoral d'abandonner la vérité en vue de s'épargner une perte quelconque. L'occasion appropriée de dire la vérité est celle où il y a un risque de perdre la vie, les biens ou l'honneur. C'est à ce moment-là que la véracité gagne son caractère de qualité morale. À ce sujet, l'enseignement de Dieu est « Fuyez l'abomination des idoles et fuyez toute parole mensongère. » Ce verset nous indique que le mensonge a valeur d'idole et celui qui en dépend cesse d'avoir confiance en Dieu. Ainsi, en disant un mensonge, on perd Dieu. Lorsque vous êtes appelé à témoigner en faveur de la vérité, ne manquez pas à le faire et ne dissimulez pas les vrais témoignages, car celui qui le fait a un cœur de pécheur. Lorsque vous parlez, dites la vérité en toute justice, même s'il s'agit d'un proche parent. Soyez ferme lorsqu'il s'agit de faire régner la justice. Et témoignez pour l'amour de Dieu seulement, même si cela devait occasionner des pertes à vos propres personnes, à vos parents, à vos proches parents ou à vos fils, etc. Ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Les hommes véridiques et les femmes véridiques seront fortement récompensés par Allah. Ils s'exhortent les uns les autres à s'agripper à la vérité, ceux qui ne cherchent pas la compagnie des menteurs. La patience. La patience dont l'homme fait montre face à la maladie ou au malheur, après s'être longuement lamenté et plaint, est une des conditions naturelles de l'homme. Il est naturel que face à la souffrance, quelqu'un pleure et gémisse dans un premier temps, et après avoir donné libre cours à ses plaintes, alors dans un deuxième temps, il s'y résigne et supporte ses souffrances. Ces deux conditions sont naturelles, mais selon le Saint Livre de Dieu, elles ne constituent pas, de quelque manière que ce soit, une qualité morale. Dans ce contexte, la qualité morale pertinente peut être définie et illustrée de la manière suivante. Lorsqu'on perd quelque chose, on doit le prendre comme si on avait rendu à Dieu cette chose que Dieu lui-même nous avait accordée, et ce, sans nullement se plaindre. On doit affirmer que c'était là une faveur que Dieu nous avait accordée, mais il l'a reprise, et l'on doit se soumettre à sa volonté. Le Saint-Coran nous enseigne à cet égard. Assurément, nous vous éprouverons par la crainte, la faim, la perte des biens, des vies et des fruits de votre labeur, et parfois vos enfants mourront. Alors, annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients et qui, frappés par le malheur, ne perdent pas espoir, mais disent « Nous appartenons à Allah et nous sommes ses serviteurs, et c'est à lui que nous retournerons. » Voilà ceux sur qui descendent les bénédictions et la miséricorde de Dieu, et ce sont eux qui sont justement guidés. Chapitre 2, versets 156 à 158. Cette qualité morale s'appelle la patience ou la réconciliation avec Dieu. D'un certain angle, on peut également l'appeler l'équité ou la justice. Au cours de la vie d'une personne, Dieu ne cesse de lui accorder tant de milliers de faveurs et de créer tant de choses pour la satisfaire et l'assister qu'il serait inéquitable de la part de cette personne lorsqu'en de telles occasions où Dieu lui demande d'accepter et de se soumettre à ce que lui, il veut, alors cette personne lui tourne le dos, n'étant pas contente de ce que Dieu lui demande, commençant à faire des critiques pour finalement perdre la foi et s'égarer. La sympathie pour l'humanité, la sympathie que l'homme éprouve à l'égard de ses congénères, constitue une des qualités naturelles de l'homme. Les adeptes de chaque religion éprouvent naturellement de la sympathie pour leurs coreligionnaires et bon nombre d'entre eux, poussés par cette sympathie, agissent en mal envers d'autres gens, comme si ces derniers n'étaient pas des êtres humains. On ne peut dire de cette sympathie-là qu'elle est une qualité morale. C'est une pulsion naturelle. L'oiseau est capable d'en faire autant. Par exemple, lorsqu'un corbeau meurt, des centaines de corbeaux se rassemblent. Cette qualité naturelle se transformera en grande qualité morale lorsqu'elle est mise en jeu, en temps et en lieu, qualité morale qu'on appelle la sympathie, aussi bien en arabe qu'en persan. Allah le Très-Haut a fait allusion à cela dans le Saint-Coran. Dieu le Tout-Puissant nous a ordonné dans le Saint-Coran. Entre-aidez-vous lorsqu'il s'agit de la piété et de l'intégrité, mais ne le faites pas lorsqu'il s'agit du péché et de la transgression. Ne vous relâchez pas dans le service que vous rendez à vos congénères. Ne plaide pas en faveur des perfides. Ne plaide pas en faveur de ceux qui persistent dans l'hypocrisie. Allah n'aime pas les perfides. En quête de l'être suprême. La quête de l'être suprême, à l'égard de qui l'homme ressent une attirance inhérente, constitue une des conditions naturelles de l'homme. Ceci est clairement mis en évidence par l'enfant qui, instinctivement, se tourne avec amour vers sa mère dès sa naissance. Avec le développement de ses facultés et l'épanouissement de sa nature, cette qualité intrinsèque va se révéler davantage. Bientôt, l'enfant n'est heureux que dans les girons de sa mère, et en est-il séparé, sa vie devient un cauchemar, une abondance de douceur. Ne suffit-ce pas pour l'amadouer et le séparer de sa mère, qui est la source de tout son bien-être? Quelle est donc la nature de cette attirance inhérente qu'éprouve si fortement l'enfant? À vrai dire, cette attirance est celle inscrite par le véritable Créateur dans la nature de l'homme. Elle est la même que celle qui existe entre deux amoureux. Effectivement, elle n'est que le reflet de l'attirance que l'homme ressent à l'égard de Dieu. L'homme se comporte comme s'il était à la recherche d'un objet perdu dont il a oublié le nom. Tantôt il le cherche dans cet objet-ci, tantôt dans cet objet-là. L'amour de la richesse, des enfants, des épouses ou de la musique n'en sont que des signes extérieurs. Vu que l'homme ne peut percevoir avec ses yeux physiques l'être imperceptible, qui demeure cependant latent, comme l'est la qualité du feu en tout un chacun, et vu qu'il ne peut le découvrir par le truchement de la raison, il s'est sérieusement trompé dans sa quête et il a malencontreusement assigné à d'autres les caractères divins. Le Saint-Coran a parfaitement illustré ceci en comparant le monde à un palais dont le plancher est carrelé de verre hautement poli sous lequel coule un torrent d'eau. Le polissage est si parfait qu'on confond facilement le verre avec le torrent d'eau. Croyant qu'il y a là un torrent d'eau, on évitera de marcher sur ce plancher. Aussi les astres célestes, tels que le soleil, la lune, etc., sont les carreaux de verre sous lesquels opère une force fabuleuse, symbolisée par le torrent d'eau. En attribuant à ces astres des pouvoirs qu'ils n'ont pas, leurs adorateurs commettent là une erreur très grave. Voilà en définitive ce qu'il en est de l'interprétation du verset suivant du Saint-Coran. C'est un palais pavé de plaques de verre, chapitre 27, verset 45. Autrement dit, c'est une salle très vaste dont le plancher est carrelé de verre hautement poli. En résumé, Dieu le Tout-Puissant, malgré sa luminosité extrême, est si voilé qu'il est impossible de le reconnaître uniquement à travers le monde physique qui se présente à nous. C'est la raison pour laquelle ceux qui se sont appuyés sur l'étude de ce système, ayant observé sa perfection avec toutes ses merveilles, et étudié l'astronomie, la physique et la philosophie, ayant pour ainsi dire survolé les cieux et la terre, n'en sont pas plus avancés, toujours rongés par le doute. Bon nombre d'entre eux vont s'emberlificoter dans ces absurdités et s'éloigner de la vérité. L'ultime conclusion qu'ils peuvent tirer est que l'univers, qui est le siège d'une intelligence infinie, doit nécessairement avoir un créateur. Mais cette conclusion n'est pas parfaite et les déductions tirées sont sommaires et incomplètes. Affirmer que ce système doit avoir un créateur n'équivaut pas à affirmer catégoriquement que Dieu existe réellement. Une telle conjecture ne peut satisfaire l'esprit et le cœur, ni n'est-elle en mesure d'effacer tous les doutes, ni n'est-elle une coupe pleine, capable de satisfaire complètement la soif de tout savoir qu'on trouve inscrit dans la nature de l'homme. Effectivement, ce savoir insuffisant est un danger, car malgré son éclat, il ne vaut rien. En résumé, à moins que Dieu affirme son existence par sa parole, comme il l'a fait par son œuvre, la simple observation de l'œuvre ne suffit pas pour satisfaire complètement le cœur. Si nous nous trouvons par exemple devant une porte verrouillée de l'intérieur, notre première réaction sera celle de conclure qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui a verrouillé la porte, et ce dans la mesure où il est apparemment impossible de verrouiller intérieurement la porte de l'extérieur par un moyen quelconque. Toutefois, si pendant des années, personne ne répond lorsqu'on frappe à la porte de l'extérieur, nous serons contraints d'écarter notre première conclusion à l'effet qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, et nous allons devoir reconnaître que la porte a été verrouillée de l'extérieur par un moyen intelligent. Voilà en bref la situation dans laquelle se sont fourrés les philosophes qui se limitent uniquement à observer l'œuvre de Dieu. C'est une erreur très grave de considérer Dieu telle une dépouille enfouie au sein de la terre dont l'exhumation et la découverte reposent sur l'effort de l'homme. S'il était donné de découvrir Dieu par le biais de l'effort humain, il serait alors vain d'attendre quoi que ce soit de ce Dieu. Effectivement, Dieu a de tout temps appelé les hommes vers lui en affirmant « Je suis présent ». Il serait impertinent d'imaginer que l'homme ait pu rendre Dieu redevable envers lui en le découvrant à travers ses propres efforts, comme si, sans l'effort de l'homme, Dieu serait demeuré inconnu. Se demander comment Dieu s'y prend pour nous parler alors qu'il n'a pas de langue est le comble de l'ignorance. La réponse est toute simple. N'a-t-il pas créé la terre et les autres corps célestes sans pour autant avoir des mains? Ne regarde-t-il pas l'univers sans avoir des yeux? N'entend-il pas nos prières sans avoir des oreilles? Si Dieu est capable de tout ceci, alors n'est-il pas indispensable qu'il puisse également nous adresser la parole? Il est également erroné de prétendre que Dieu parlait aux hommes dans le passé, mais qu'aujourd'hui il ne le fait plus. Nous ne pouvons limiter sa parole ou son discours à une période donnée dans le temps. Il est tout aussi prêt aujourd'hui, comme il l'a été par le passé, à enrichir par la révélation ceux qui le cherchent. Les portes de sa grâce sont tout autant grandes ouvertes aujourd'hui qu'elles ne l'ont été par le passé. Cependant, il est vrai que comme le besoin d'avoir une loi parfaite a déjà été satisfait, réglementations et interdits ont déjà été posés définitivement. Aussi, toutes les formes prophétiques possibles qui ont atteint leur apogée en la personne de notre Seigneur et Maître, le saint prophète, sur lui la paix et les bénédictions de Dieu, ont donc déjà été manifestées. Pourquoi le saint prophète a-t-il été suscité en Arabie? Que la dernière loi divine apparaisse en Arabie est un événement décrété par Dieu dans sa sagesse. Les Arabes, descendants d'Ismaël, ont été séparés d'Israël par Dieu dans sa sagesse et rejetés dans le désert de Paran. Abraham lui-même sépara les descendants d'Ismaël de ceux d'Israël. Ainsi, les premiers n'eurent pas à suivre la loi de la Torah. C'est d'autant plus intéressant qu'il avait été écrit qu'ils n'hériteraient pas d'Isaac. Ainsi donc, d'une part, ils furent abandonnés par leurs proches et d'autre part, ils ne connurent pas d'autres relations. Il existait en ce temps-là, dans tous les autres pays, des reliques de lois religieuses et de cultes de Dieu qui suggéraient qu'à un temps antérieur, des prophètes avaient été suscités parmi eux. L'Arabie seule, qui n'avait pas été l'objet d'une telle faveur, était le pays le plus arriéré. Lorsqu'en dernier lieu, son tour arriva, l'Arabie fut bénie par un prophète de caractère universel, et ce afin que tous les autres pays puissent en bénéficier. De plus, cela leur permettait de corriger les erreurs qui auraient pu survenir et prévaloir à leur niveau. Le Saint-Coran est le livre parfait, qui entreprit le projet de réformer l'homme, et il ne s'adresse pas à un peuple en particulier. Il veut réformer tous les hommes, et il s'intéresse à toutes les étapes du développement humain. Il enseigne aux primitifs les usages et coutumes de ce qui fait un être humain, et ensuite, il leur donne un code d'éthique morale sans égal. Ainsi donc, le Saint-Coran est tout à fait suffisant à lui seul pour accomplir cette tâche. Ce que le monde doit au Saint-Coran, il est une grâce du Saint-Coran faite à l'humanité qu'il a d'une part établi une distinction entre l'état naturel de l'homme et son état moral, et d'autre part, il ne fait pas simplement qu'élever l'homme de sa condition naturelle au sublime état d'un être possédant des qualités morales, mais il lui ouvre également les portes de la gnose, qui le projette vers les sommets spirituels, comme il l'a fait pour des centaines de milliers d'hommes déjà. De cette manière, le Saint-Coran a présenté de la manière la plus convenable qui soit les trois types d'enseignements que nous avons déjà mentionnés. Comme il comprend tous les enseignements nécessaires à l'épanouissement religieux, il revendique qu'il a effectivement rempli cette fonction à la perfection. Il dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion pour votre bienfait, et j'ai complété ma grâce sur vous, et c'est avec plaisir que je vous prescris l'islam comme religion. » Cela signifie que l'ultime sommet de la religion a été atteint en l'islam, dont le sens est que l'homme doit se consacrer entièrement à Dieu et qu'il doit chercher son salut en sacrifiant son moi dans la voie de Dieu. Il doit le faire par ce moyen uniquement, sans avoir recours à d'autres, et de plus par sa conduite, il doit manifester l'enthousiasme qui l'anime. C'est à cette étape que toutes les excellences atteignent leur perfection. Ainsi le Saint-Coran nous a présenté le Dieu que les philosophes n'ont pas réussi à identifier. Le Saint-Coran a adopté deux méthodes par lesquelles on peut reconnaître Dieu. La première méthode est celle qui s'adresse à la raison humaine et qui vise à l'illuminer et la rendre plus sûre d'elle en lui présentant des preuves attestant l'existence de Dieu afin qu'elle ne s'égare pas. Et deuxièmement, la méthode spirituelle que nous développerons en réponse à la troisième question. Preuves attestant l'existence de Dieu. Nous allons maintenant vous présenter les preuves incomparables et excellentes attestant l'existence de Dieu que le Saint-Coran a mis de l'avant. Il est écrit « Notre Seigneur est celui qui a octroyé à toutes choses des facultés appropriées et ensuite il les a conduites vers la réalisation des objectifs préétablis. » Si nous gardons à l'esprit le sens de ce verset et que nous réfléchissons sur la morphologie et la physionomie donnée à l'homme, aux animaux, tant terrestres que marins, ainsi qu'aux oiseaux, nous ne pouvons nous empêcher d'être frappés et ébahis par l'immense pouvoir de Dieu, qui a donné à chaque espèce une morphologie et une physionomie appropriées et adaptées. Ce sujet est très vaste et nous invitons avec empressement l'audience à méditer là-dessus. La deuxième preuve que nous présente le Saint-Coran est que Dieu est la cause ultime de toutes les causes, comme il est écrit « Votre Seigneur est l'ultime cause de toutes les causes ». Si nous examinions de près les phénomènes existants, nous constaterons que l'univers dans son ensemble est lié en un tout par un système de cause à effet. Ce système est le fondement de toutes les sciences. Aucune parcelle de la création ne se trouve en dehors de ce système. Il n'y a pas d'effet sans cause. Une cause peut être première, secondaire, tertiaire, et ainsi de suite. Toutefois, il n'est pas possible que cet enchaînement des causes et des effets soit sans fin dans cet univers fini. Nous sommes contraints de reconnaître qu'il doit se terminer en une cause ultime. Cette ultime cause est Dieu. Le verset « Votre Seigneur est l'ultime cause de toutes les causes » présente en quelques mots cet argument. Il affirme que le système de cause à effet se termine en Dieu. Une autre preuve attestant l'existence de Dieu présentée par le Saint-Coran est que le soleil ne peut rattraper la lune et la nuit ne peut doubler le jour. Nul de ces astres ne peut se mouvoir en dehors de leurs orbites. S'il n'y avait pas dans les coulisses, pour ainsi dire, un régulateur contrôlant chaque partie de l'ensemble de ce système, effectivement, tout sombrerait dans le chaos. Cette preuve est des plus pertinentes selon l'avis des astronomes. Il y a tant d'astres célestes immenses glissant sur leurs orbites déterminées qu'il est vrai qu'un simple grain de sable dans la mécanique céleste suffirait pour tout faire chambouler. N'est-il pas là une manifestation formidable de la puissance divine que ces astres n'entrent pas en collision les uns avec les autres, ni ne changent-ils leur vitesse de course, ni ne dévient-ils de leur trajectoire, ni ne subissent-ils d'usure au cours des âges, ni leur mécanique ne souffre-t-elle de défaillance ? S'ils ne fonctionnent pas sous le contrôle d'un surveillant, alors comment se fait-il qu'après un nombre d'années incalculables, ce système si grandiose fonctionne encore parfaitement ? Ailleurs dans le Saint-Coran, Dieu attire notre attention à ce sujet par ses paroles. « Peut-il y avoir de doute quant à l'existence de Dieu qui a créé les cieux et la terre ?» Dieu a présenté une autre preuve de son existence en ces mots. « Tout ce qui est sur la terre périra, et seule la face du Seigneur, maître de la gloire et de l'honneur, subsistera. À supposer que la terre soit réduite en poussière, et les astres célestes broyés, et que le tout soit pulvérisé, sombrant complètement dans le néant. Néanmoins, la raison admettra et la bonne conscience estimera qu'il est nécessaire qu'après toute cette destruction, il doit survivre un qui est indestructible, immuable et éternel dans sa perfection. Cet un est Dieu qui a créé toutes les choses mortelles alors que lui, il est immortel. Une autre preuve que Dieu a présentée dans le Saint-Coran est « Dieu sans qui, auprès des âmes, ne suis-je pas votre Seigneur ?» Chapitre 7, verset 173. Et elles répondirent « Assurément oui ». Dans ce verset, Dieu le Tout-Puissant a présenté sous la forme de questions-réponses le trait dont il a doté l'âme, à savoir que de par sa nature même, l'âme ne peut nier l'existence de Dieu. Ceux qui le nient le font parce qu'ils n'ont pas encore trouvé de preuves valables, selon eux, de son existence. Cependant, ils reconnaissent tous que toute chose inventée doit nécessairement avoir un inventeur. Il n'y a personne au monde si stupide que s'il tombait malade, dirait et maintiendrait avec force qu'il n'y a pas de cause à sa maladie. Si l'univers n'était pas régi par le système de cause à effet, il aurait été impossible de prédire l'heure à laquelle frapperait une tempête, ou encore l'heure à laquelle surviendrait une éclipse du soleil ou de la lune, ou encore dans combien de temps à peu près mourrait un patient, ou encore à quel moment une complication apparaîtrait lors d'une maladie. Ainsi, le chercheur qui n'admet pas l'existence de Dieu reconnaît en fait indirectement son existence, car lui également, comme nous, cherche les causes. C'est en quelque sorte un aveu de sa part que Dieu existe, mais cela n'est pas parfait. Par ailleurs, si par un moyen quelconque, on pouvait endormir quelqu'un qui nie l'existence de Dieu, de façon à le placer totalement sous le contrôle de Dieu, ses fantasmes, émotions et pulsions de la vie terrestre étant tous anéantis, alors à coup sûr, dans un tel état, il admettrait l'existence de Dieu et ne la nierait pas. Ceci est soutenu par d'éminents experts. Le verset que nous avons cité plus haut indique également que la négation de l'existence de Dieu ne représente qu'une manifestation de la vie terrestre, car la vraie nature de l'homme admet de plein gré son existence. Les attributs de Dieu. Nous avons présenté ces quelques preuves de l'existence de Dieu en guise d'illustration. Nous allons maintenant nous intéresser aux attributs de Dieu. Ce Dieu vers lequel le Saint-Coran nous convie, ses attributs sont les suivants. Dieu est un sans associé, et nul à part lui n'est digne d'être adoré et obéi. Cette déclaration est faite, car s'il avait des associés, l'on serait amené à craindre qu'il puisse être vaincu par un dieu rival, dans lequel cas sa divinité serait mise en doute. L'affirmation que nul n'est digne d'être adoré si ce n'est lui, signifie qu'il est si parfait, et ses attributs sont si excellents et élevés, que si nous devions choisir un dieu dans l'univers qui posséderait des attributs parfaits, ou si nous devions imaginer les attributs les meilleurs et les plus élevés que doit avoir Dieu, il se trouverait que le véritable Dieu serait encore plus élevé que nos conjectures. Nul ne peut se situer au-delà de lui, et nul ne peut être plus élevé que lui. Voilà Dieu. Lui attribuer des associés en l'adorant serait le comble des méfaits. Il connaît l'invisible, c'est-à-dire il est le seul à se connaître. Nul ne peut comprendre l'être de Dieu. Il nous est possible de comprendre le soleil et la lune dans leur ensemble. Mais pour ce qui est de Dieu, cela est tout à fait impossible. Il connaît le visible, c'est-à-dire rien n'est caché à son regard. On ne peut imaginer que quelque chose puisse lui échapper. Chaque atome de l'univers lui est visible. L'homme, cependant, ne peut jouir d'une telle vision. Dieu sait à quel moment il détruira ce système pour passer au jugement. Nul autre que Dieu ne sait quand cela va avoir lieu. Puis il est dit, il est le gracieux. Cela signifie que ce n'est que par pure générosité que Dieu a pourvu les créatures de tout ce dont elles ont besoin avant même qu'elles soient créées ou avant même qu'elles n'aient fait une quelconque action. Ces dons ne sont pas la juste récompense d'une action méritoire de leur part. Par exemple, Dieu a créé pour notre bien le soleil, la lune et bien d'autres choses encore avant même qu'on ait été créé ou ait fait quelques actions qui méritent récompense. Cette grâce divine s'appelle la Rahmania, dans l'idiome du Saint-Coran. Et eu gare à cela, Dieu est appelé Rahman. Dieu récompense également avec abondance l'action de l'homme, et il ne la laisse pas improductive. En raison de cette dernière qualité, Dieu est appelé Rahim, la qualité elle-même étant appelée Rahmania. Ensuite, il est écrit, « Il est le maître du jour du jugement. » Chapitre 1, verset 4. Cela signifie qu'il a entre ses mains la rétribution de tout un chacun. Il n'a délégué à personne la direction des affaires célestes et terrestres, lui-même s'étant retiré, comme s'il n'avait rien à faire, et léguant à jamais à un agent quelconque le droit de la rétribution. Ensuite, il est dit, il est le souverain parfait qui ne souffre d'aucune faiblesse. Chapitre 59, verset 24. C'est l'évidence même que la souveraineté dont peut jouir l'homme est toujours entachée de manquements. Si par exemple, tous les sujets d'un souverain devaient le quitter pour aller s'établir dans un autre pays, alors en un clin d'œil, sa souveraineté s'évaporerait. Ou encore, Si jamais le peuple était terrassé par la famine, alors comment l'État ferait-il pour remplir ses caisses? Ou encore, si la question a été posée au souverain, de nous dire ce qu'il a en plus par rapport à ses sujets, qui les obligerait à se soumettre à son autorité, qu'aurait-il à répondre? À l'encontre de cela, la souveraineté de Dieu n'obéit pas à ses conditions et ne souffre d'aucune tare. Il a le pouvoir de tout détruire et de créer un autre royaume en un clin d'œil. S'il n'était pas un tel créateur tout-puissant, c'est-à-dire capable de créer un autre royaume, il lui serait impossible d'exercer sa souveraineté sans départir des normes de la justice. Effectivement, à supposer qu'il a déjà pardonné tout le monde et qu'il leur a donné la vie éternelle, alors comment ferait-il pour s'offrir un autre monde s'il ne possédait pas le pouvoir d'en créer un autre? Chercherait-il à prendre de force ceux déjà pardonnés et sauvés pour les expédier à nouveau sur la terre et, ce faisant, révoquer injustement sa première décision de pardon et d'octroi du salut? Ainsi, il apparaîtrait des lacunes dans sa divinité et il deviendrait un souverain imparfait, comme les rois de ce monde, qui ne cessent de promulguer des nouvelles lois et qui, de temps à autre, sont fortement agacés et embarrassés par leurs propres dispositions légales et lorsqu'ils se rendent compte, pris dans leur égoïsme, qu'ils ne peuvent agir sans injustice, alors ils s'y résignent sans le moindre scrupule. Par exemple, il est de norme dans l'exercice de la souveraineté terrestre de sacrifier les passagers d'un petit navire en vue de sauver ceux d'un grand navire, mais Dieu n'est pas soumis à de telles contraintes. Si Dieu n'avait pas été tout-puissant et n'avait pas le pouvoir de créer à partir du néant, il aurait été contraint, soit comme les pauvres souverains terrestres d'avoir recours à l'injustice, soit de s'agripper à maintenir la justice et perdre du même coup sa divinité. Mais le navire de Dieu poursuit son voyage sans accroc sur les bases de la justice. Ensuite, il est source de paix, c'est-à-dire les faiblesses, les malheurs et les tribulations lui sont complètement étrangers. En fait, il veille sur la sécurité de tous. S'il était possible qu'il soit affligé par le malheur, ou encore qu'il soit tué par son peuple, ou encore qu'il ne puisse accomplir ses desseins, alors dans ces cas-là, comment inspirait-il confiance, surtout à l'effet qu'il puisse secourir les hommes des malheurs qui les affligent? Dieu le Tout-Puissant a décrit les caractéristiques des faux dieux en ces termes. Ceux à qui vous faites appel à côté d'Allah ne peuvent même pas créer une mouche, même si pour parvenir à cela, ils se mettaient tous ensemble. Et si une mouche devait leur dérober quelque chose, ils se verraient incapables de la récupérer. Leurs adorateurs font preuve de manque d'intelligence, et les faux dieux eux-mêmes n'ont aucun pouvoir. Ces choses-là peuvent-elles vraiment être Dieu? Dieu est un, plus puissant que les puissants. Il est le grand, suprême, sur tout ce qui est. Nul ne peut l'appréhender ou le tuer. Ceux qui font de telles erreurs n'ont pas une idée juste et appréciable des attributs de Dieu. Se reporter au chapitre 22, versets 74 à 75. Ensuite, Dieu est celui qui accorde la sécurité et il présente les preuves attestant la réalité de ses attributs et de son unicité. Cela sous-entend que celui qui croit en Dieu, le véritable Dieu, ne peut jamais être embarrassé, ni ne peut-il se sentir coupable en présence de Dieu, car il a avec lui des preuves irréfutables. Mais celui qui croit en un faux Dieu se trouve toujours dans une situation inconfortable et de malaise extrême. Il décrit tout ce qui est insensé comme un mystère afin de ne pas apparaître ridicule et il cherche toujours à camoufler des erreurs grosses comme des montagnes. Il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Chapitre 2, verset 21. Voilà ce qui est réconfortant pour ses adorateurs, car que peut-on attendre d'un Dieu impuissant et incapable? Ensuite, il est dit, « Il est le Seigneur de tous les mondes, très gracieux, miséricordieux, maître du jour du jugement. » Chapitre 1, versets 2 à 4. Cela signifie qu'il est celui qui pourvoit aux besoins de tous les mondes et qu'il est lui-même le maître du jour du jugement, n'ayant point délégué cette tâche. Ensuite, il est dit, « Je réponds à l'appel de celui qui fait appel à moi. » Chapitre 2, verset 187. Il est aussi l'Éternel, source de toute vie, qui subsiste par lui-même et qui se suffit. Chapitre 2, verset 256. Il est la vie de toute vie et le soutien de tout être. Il est la vie éternelle, car s'il ne l'était pas, ses adorateurs n'auraient pas tort de craindre qu'il puisse mourir avant eux. Ensuite il écrit, dit « Il est Allah, l'unique, il n'engendre pas, ni n'est-il engendré, et nul n'est son égal ou semblable à lui. Croire justement en l'unicité de Dieu sans en départir le moindrement, voilà la justice que l'homme peut rendre à son Créateur. Nous avons présenté les enseignements coraniques sur la moralité en islam, le principe de base étant de ne tomber ni dans la démesure, ni dans l'insuffisance. Il est une caractéristique d'une qualité morale qu'elle ne tombe ni dans l'excès, ni dans l'insuffisance par rapport à ses limites appropriées. Il est clair que la vertu se situe à mi-chemin entre deux extrêmes. Seule cette habitude de se tenir à mi-chemin entre deux extrêmes est capable de produire des hautes qualités morales. Reconnaître le temps et le lieu appropriés constitue en lui-même la voie du juste milieu. La vertu, la vérité, la sagesse, voilà le juste milieu. Et le juste milieu est ce qu'il y a de plus adéquat. En d'autres mots, la vérité se situe toujours entre deux mensonges qui s'opposent. Il n'y a point de doute que surveiller le moment approprié aide à maintenir une personne sur le chemin du milieu. Suivre la voie du juste milieu en matière de connaissance de Dieu s'explicite ainsi. En appliquant les attributs de Dieu, l'on ne doit pas d'une part pencher vers un rejet des attributs de Dieu et d'autre part décrire Dieu comme ressemblant à l'ordre matériel. Voilà la ligne adoptée par le Saint-Coran pour présenter les attributs de Dieu. Le Saint-Coran affirme que Dieu voit, entend, comprend et parle. Et afin de dissiper tout malentendu à l'effet que Dieu puisse ressembler à sa création, le Saint-Coran affirme également « Nul ne lui ressemble » Chapitre 42, verset 12. Et n'attribuez pas des similitudes à Dieu. Chapitre 16, verset 75. Cela signifie que l'être de Dieu ainsi que ses attributs sont sans partenaire et qu'il ne ressemble en aucune manière à ses créatures. Concevoir Dieu comme étant à mi-chemin entre la ressemblance et la transcendance est le juste milieu. En résumé, tous les enseignements de l'islam obéissent à ce principe. La sourate al-Fatiha enseigne le même principe. Elle nous enseigne de supplier Dieu de nous guider sur la voie de ceux qui ont joui des faveurs de Dieu, non de ceux qui se sont attirés son courroux, ni de ceux qui se sont égarés. Ceux qui se sont attirés son courroux désignent ces gens qui, en s'opposant à Dieu, cèdent à la colère pour se comporter comme des sauvages. Ceux qui se sont égarés désignent ces gens qui se comportent comme des animaux. Le chemin du milieu étant celui des gens sur qui Dieu a fait descendre ses faveurs. En bref, pour ce peuple béni, Dieu a prescrit l'adhésion au principe du juste milieu. Dans la Torah, Dieu le Tout-Puissant a mis l'accent sur la loi du talion, et dans les évangiles, il a mis l'accent sur la patience et le pardon. Les musulmans, quant à eux, ont été appelés à peser la situation pour voir ce qui est mieux et convenable, et d'adhérer à la voie du juste milieu. Ainsi il est écrit « Ainsi avons-nous fait de vous les gens du juste milieu ?» suggérant qu'il a été enseigné aux musulmans de suivre la voie du milieu. Chapitre 2, verset 144. Ainsi donc, bénis sont ceux qui cheminent sur la voie du milieu. La voie du milieu est meilleure. Les conditions spirituelles. La troisième question est, quelles sont les conditions spirituelles? Nous avons déjà vu que selon le Saint-Coran, la source des états spirituels est l'âme apaisée, qui élève l'individu de l'état moral à l'état spirituel divin. Comme Allah, à lui la gloire, l'a dit. Ô âme apaisée, toi qui as trouvé la paix chez ton Seigneur, retourne auprès de lui, toi bien satisfaite de lui, et lui bien satisfait de toi. Rejoins donc mes serviteurs élus, et entre donc dans mon paradis. Chapitre 89, versets 28 à 31. Il serait souhaitable à ce stade que pour expliquer les conditions spirituelles, nous commentions sur ce verset. L'on doit se rappeler que l'état spirituel le plus élevé que peut atteindre une personne en ce monde est celui où elle trouve tout son réconfort en Dieu et où toute sa satisfaction, son extase et son ravissement sont centrés en Dieu. Voilà l'état qu'on appelle la vie céleste. C'est de cette manière que l'homme jouit de la vie céleste en ce monde même et ce, en récompense de sa sincérité, de sa pureté d'âme et de sa foi parfaite. D'autres personnes s'attendent à connaître le paradis dans la vie future, mais l'adepte entre dans le paradis dans cette vie même. Parvenu à cette étape, il se rend compte que les actes d'adoration qui lui étaient prescrits servaient en fait à nourrir son âme et que sa vie spirituelle en dépendait largement et que la réalisation du paradis n'est pas remise à la vie future. Toute la réprobation qu'il s'imposait à lui-même eu égard à sa vie antérieure, souillée de péché, réprobation qui toutefois n'arrivait pas à éveiller efficacement le désir pour la vertu et le dégoût pour ses vils désirs, et à lui donner une force certaine pour adhérer à la vertu, toute cette réprobation va se transformer par la nouvelle conscience de ce que sont réellement les actes d'adoration en une force qui constitue le début du développement de l'âme apaisée. Parvenu à cette étape, l'individu est apte à connaître la félicité parfaite. Les traits concupiscents de son moi s'estompent et un vent vivifiant souffle sur son âme, de sorte que c'est avec regret qu'il perçoit ses manquements antérieurs. À ce moment, la nature et les habitudes sont complètement transformées et la personne s'éloigne considérablement de sa condition première. Il est purifié et Dieu inscrit en son cœur l'amour pour la droiture, éradiquant lui-même la souillure du vice. Les forces vives de la vérité pénètrent dans la citadelle de son cœur et la droiture s'infiltre et s'installe dans les retranchements de sa nature. Et la vérité prédomine et le mensonge dépose les armes et prend la fuite. La main de Dieu est sur son cœur et c'est à l'ombre de Dieu qu'il fait chaque pas. Dieu le Tout-Puissant a fait allusion à tout ceci dans les versets suivants. Les voilà. Dans leur cœur, Allah a inscrit de sa propre main la foi et il les a aidés et fortifiés du Saint-Esprit. Allah vous a rendu chère la foi et il a embelli à vos cœurs et il vous a fait éprouver de la répugnance à l'égard de la mécréance, de l'iniquité et de la désobéissance. Et il a marqué vos cœurs d'un sentiment de répulsion à l'égard de la turpitude, des mauvais penchants. Tout cela s'est passé par la grâce et la bonté d'Allah. Allah est omniscient, sage. La vérité est apparue et le mensonge a disparu. Le mensonge doit forcément disparaître. Chapitre 49, versets 8 à 9 et chapitre 17, verset 82. Tout ce qui vient d'être décrit appartient à la condition spirituelle vécue par un individu parvenu à la troisième étape. Nul ne peut jouir du vrai discernement s'il n'a pas atteint cette étape. Dieu inscrivant de sa propre main la foi dans leur cœur et les aidant grâce au Saint-Esprit signifie qu'il est quasiment impossible de connaître la vraie droiture et la pureté d'âme à moins d'être aidé par le ciel. À l'étape de l'âme qui réprouve le vice, la condition de l'individu est telle qu'il se repent de temps à autre, mais cela n'empêche pas qu'il continue à trébucher et souvent il tombe dans le désespoir croyant que son cas est irrémédiable. Il va vivre cette situation pendant quelque temps et à l'avènement de l'heure appropriée, une lumière imprégnée de puissance divine descend sur lui. Avec l'arrivée de cette lumière, il se transforme avec merveille et il ressent la présence d'une main invisible qui le soutient et il voit un monde merveilleux. À ce moment précis, il réalise que Dieu existe et ses yeux s'emplissent d'une lumière méconnue jusqu'ici. Que faire pour trouver cette voie et acquérir cette lumière? Sachez-le. À chaque effet, il existe une cause. Il n'y a pas de fumée sans feu. Pour acquérir une quelconque science, il existe une méthode bien spécifique qu'on appelle le droit chemin. On ne peut rien accomplir en ce monde sans se conformer strictement aux règles imposées par la nature. La loi de la nature nous enseigne que pour accomplir quoi que ce soit, une voie bien précise a été prescrite et le but ne peut être atteint qu'en parcourant cette voie seulement. Si par exemple nous sommes assis dans une chambre où règne une obscurité totale, le droit chemin qu'on doit parcourir pour faire pénétrer la lumière dans la chambre est d'ouvrir la fenêtre qui fait face au soleil. Lorsque nous faisons cela, la lumière pénètre immédiatement dans la chambre pour l'éclairer. Ainsi, il est clair que pour acquérir l'amour et la grâce de Dieu, une fenêtre quelconque doit exister et il doit exister une méthode précise à suivre pour vivre la vraie spiritualité. Ainsi donc, il nous incombe de chercher le droit chemin qui conduit à la spiritualité, tout comme nous adoptons une méthode particulière pour avoir le succès dans toutes nos affaires. Ce chemin n'est pas celui où l'on cherche à rencontrer Dieu en faisant usage de la raison ou en suivant des méthodes qu'on s'improvise soi-même. Les portes qui ne peuvent être ouvertes que par ces mains puissantes ne vont pas lâcher et s'ouvrir par notre raisonnement logique ou notre propre philosophie. Nous ne pouvons trouver l'Éternel, toujours vivant, subsistant par lui-même, par le biais de nos propres moyens. Le seul droit chemin disponible pour accomplir cet objectif est que dans un premier temps, il va falloir sacrifier notre vie et consacrer toutes nos facultés pour la cause de Dieu et ensuite nous occuper à le supplier vivement pour qu'il nous accorde cette rencontre avec lui et ainsi trouver Dieu à travers Dieu lui-même. La prière par excellence, qui nous indique à quel moment et occasion il faut prier et qui est offerte pour accroître notre enthousiasme spirituel, est celle que Dieu, le bienfaisant, nous a enseignée dans le premier chapitre du Saint-Coran, à savoir « Toutes les louanges qui méritent cette appellation appartiennent à Allah seul, qui est le Créateur et le soutien de tous les mondes. » Chapitre 1, verset 2. Par sa grâce, il pourvoit nos besoins avant même qu'on ait fait quelques demandes. Et avons-nous déjà fait quelque action? Alors, de par sa miséricorde, il nous en récompense. Chapitre 1, verset 3 à 4. Il est à lui seul le maître du jour du jugement, et il n'a pas délégué la présidence de ce jour à quiconque. Ô toi qui comprends tous ces attributs, nous n'adorons que toi, et ne cherchons que ton aide dans ce que nous entreprenons. Chapitre 1, verset 5. L'usage de la première personne du pluriel dans ce contexte indique que toutes nos facultés se sont engagées dans l'acte d'adoration et se sont prosternées devant le seuil de Dieu. Chaque individu, en vertu de ses nombreuses facultés internes, est ainsi un tout, fait de multiples parties, et la prosternation et la soumission de toutes ses facultés devant Dieu aboutissent à cette condition qu'on appelle l'islam. Guide-nous sur ton droit chemin et maintiens-nous fermement là-dessus, le chemin de ceux à qui tu as accordé tes bontés et faveurs, et non de ceux qui ont subi ton courroux, ni de ceux qui se sont égarés, n'étant pas parvenus à te rencontrer. Amin. Chapitre 1, versets 6 à 7. Ces versets nous enseignent que les bontés et faveurs divines ne sont octroyées qu'à ceux qui sacrifient leur vie pour la cause de Dieu, se dévouant entièrement à cet objectif, toujours œuvrant à satisfaire sa volonté, tout en n'arrêtant pas de prier Dieu de leur accorder toutes les faveurs spirituelles dont l'homme peut jouir, à savoir accéder à son intimité, le rencontrer et entendre sa parole. Par cette prière, ils adorent Dieu par le biais de leurs facultés, ils fuient la tentation et le péché et demeurent prosternés devant le seuil de Dieu. Ils se protègent contre tous les péchés et évitent tout ce qui peut exciter le courroux de Dieu. Vu qu'ils cherchent Dieu avec une grande volonté et en toute sincérité, ils le trouvent et la soif qu'ils ont pour connaître Dieu est complètement étanchée. La vraie et parfaite grâce qui projette quelqu'un vers le monde spirituel repose sur la persévérance, persévérance qui sous-entend ce degré de sincérité et de fidélité dans la foi qui ne peuvent être ébranlés par aucune épreuve, quelle qu'elle soit. Cette persévérance exige également l'existence d'une relation si forte avec Dieu qu'aucune épée ne peut la couper, qu'aucun feu ne peut la brûler, qu'aucune calamité ne peut l'endommager. Ni la mort des proches, ni la séparation d'avec eux, ne doivent-elles l'influencer, ni la crainte d'être déshonorée ne doit-elle l'affecter, ni une mort douloureuse ne doit-elle faire vaciller le moindrement le cœur. Ainsi cette porte est très étroite et la voie bien difficile à parcourir. Hélas, combien c'est difficile. Dieu le Tout-Puissant en parle ainsi dans les versets suivants. Dis-leur, si vos pères et vos fils et vos frères et vos épouses et vos parents et la richesse que vous avez amassée et les affaires dont vous craignez le marasme et les maisons qui vous plaisent, si tout cela vous est plus cher qu'Allah et son messager et s'efforcer dans sa voie, alors attendez le moment où Allah passera son jugement. Allah ne guide pas le peuple désobéissant. Chapitre 9, verset 24. Ce verset illustre clairement que ceux qui s'opposent à la volonté divine et accordent préséance à leurs parents et leurs biens, qu'ils aiment davantage, sont de l'avis de Dieu des mécréants, et ils seront sûrement ruinés parce qu'ils ont préféré autre chose à Dieu. Voilà la troisième étape où devient homme de Dieu cette personne qui supporte mille calamités à cause de Dieu, qui se tourne vers Dieu avec une telle ferveur et une telle sincérité qu'il semblerait qu'elle n'avait de relation avec personne d'autre que Dieu, tous les autres étant comme morts. La vérité est que tant que nous ne nous anéantissons pas dans la mort, nous ne pourrons percevoir le Dieu vivant. Le jour où notre vie matérielle subit la mort est le jour de la manifestation de Dieu. Tant que nous ne devenons pas aveugles à l'égard de tout sauf Dieu, nous sommes et demeurons des aveugles. Tant que nous ne devenons pas tels des dépouilles mortelles entre les mains de Dieu, nous sommes et demeurons des morts. Ce n'est qu'à partir du moment où nous faisons face à Dieu dans la totalité de notre être que nous parvenons à cette étape de ténacité qui subjugue toutes les passions du moi et qui inflige la mort à cette vie consacrée à des fins intéressées ou égoïstes. Le verset suivant illustre ce fait. En vérité, quiconque se soumet complètement à Allah et dont la conduite est excellente. Chapitre 2, verset 113. Cela signifie que Dieu réclame de nous que nous devrions nous offrir à être sacrifiés dans sa voie. Nous connaîtrons cette persévérance ou ténacité lorsque nous sacrifierons toute notre faculté et aptitude dans sa voie et lorsque notre vie et notre mort lui seront dédiées, tel qu'il l'a dit. Proclame au prophète, mes prières et mes sacrifices et ma vie et ma mort sont tous dédiés à Allah. Chapitre 6, verset 163. Lorsque l'amour que l'homme a pour Dieu atteint ce degré où sa vie ainsi que sa mort ne lui appartiennent pas, mais sont consacrés à Dieu, alors Dieu, qui de toujours a aimé ceux qu'il aime, le gratifie de son amour, et la jonction de ces deux flammes d'amour donne naissance dans le cœur de l'homme à une lumière que le monde ne peut reconnaître ou comprendre. Des milliers de justes et d'élus ont été martyrisés parce qu'ils n'ont pas été reconnus. Ils furent traités comme des imposteurs et des personnes intéressées, car le monde n'avait pu distinguer l'éclat qui embellissait leur visage, comme il est dit. Ils te regardent, mais ils ne te voient pas. Chapitre 7, verset 199. En résumé, le jour où cette lumière apparaît, l'homme cesse d'être de ce monde. Il devient céleste. Dieu, le maître de tout, lui parle dans son fort intérieur et lui fait apparaître la lumière de sa divinité et fait de son cœur, qui baigne dans son amour, son trône. Aussitôt que cette personne devient quelqu'un d'autre, par la brillante transformation apportée par lui, Dieu devient un autre Dieu pour elle. Il lui présente de nouvelles manifestations. Cela ne veut pas dire que Dieu est devenu un autre Dieu ou que ces nouvelles manifestations sont différentes de ses manifestations normales. Mais pourtant, il existe bel et bien une distinction méconnue par la philosophie mondaine. Cette personne appartient à ces gens concernant lesquels le Saint-Coran a fait référence. Il y a parmi les gens l'élite qui se consacre entièrement à œuvrer pour plaire à Allah en sacrifiant leur vie. C'est envers cette élite-là qu'Allah se montre très compatissant. Ainsi, celui qui atteint l'état spirituel se dévoue corps et âme à la cause de Dieu. Se référer au chapitre 2, verset 208. Dans ce verset, Dieu le Tout-Puissant a élucidé que seul sera délivré du supplice celui qui, pour plaire à Dieu, donne sa vie pour sa cause et qui, pour en donner la preuve de son dévouement, sacrifie sa vie. Il considère qu'il a été créé pour obéir à son Créateur et pour servir les hommes. Il s'adonne à pratiquer chaque vertu liée à chacune de ses facultés avec ardeur et ferveur, comme s'il voyait son bien-aimé dans le miroir de sa soumission. Sa volonté se confond avec celle de Dieu, et il trouve tout son plaisir dans l'obéissance qu'il montre à l'égard de Dieu. Il fait des actions pieuses, non en fournissant un effort particulier, mais par plaisir. Voilà le paradis octroyé à un être spirituel dans cette vie même. Le paradis de la vie future ne sera que le reflet de celui-ci qui, par le pouvoir d'Allah, se matérialisera physiquement. Des versets suivants font allusion à cela. Pour celui qui craint de se présenter devant son Seigneur et qui prouve de la crainte révérentielle devant sa grandeur et sa majesté, il y a deux jardins, l'un dans son monde et l'autre dans l'au-delà. À ceux qui se consacrent entièrement à Dieu, un breuvage sera offert qui leur purifiera le cœur, l'esprit, ainsi que les intentions. Un breuvage tempéré de camphre sera offert aux justes. Les serviteurs d'Allah le boiront d'une source. Ils font jaillir la source par leurs propres efforts. Se référer au chapitre 76, versets 6 à 7. Les breuvages tempérés de camphre et de gingembre. Nous avons déjà expliqué que le mot kafour a été utilisé dans ce verset pour la bonne et simple raison qu'en arabe, le mot kafara signifie supprimer ou recouvrir. Cela sous-entend que ces gens ont bu la coupe du détachement d'avec le monde et ils se sont tournés vers Dieu avec une telle sincérité que dans leur cœur, l'amour du monde s'est complètement refroidi. Il est connu de tous que les passions naissent dans le cœur et si le cœur s'éloigne complètement des fantasmes indésirables pour ne jamais y succomber, ces passions s'estompent pour disparaître finalement. Voilà ce que ce verset nous enseigne. Il nous dit que ces gens se retirent si loin des passions du moi et s'inclinent avec une telle soumission devant Dieu que dans leur cœur l'amour du monde se refroidit forcément et les passions qui les animent sont supprimées, tout comme le camphre supprime le poison. Ensuite, il est dit, là-bas on leur donnera à boire une boisson tempérée de gingembre. Dans la langue arabe, zanjabil est un mot contracté composé de zana et jabal. Zana signifie escalader et jabal signifie une montagne. Ainsi, zanjabil signifie « il escalada la montagne ». L'on doit se rappeler qu'une personne qui relève d'une intoxication passe par deux étapes avant de recouvrer complètement la santé. La première étape est celle où le poison est supprimé et les effets nocifs éliminés, mais le patient demeure cependant affaibli, ne pouvant se mouvoir qu'avec difficulté. La deuxième étape est celle où le patient récupère complètement. Retrouvant toutes ses forces, il se sent capable d'escalader une montagne. Cette dernière condition n'est atteinte qu'à la troisième phase du développement de l'âme, où selon ce que Dieu a dit, l'élite de parmi les hommes de Dieu consomme une boisson tempérée de gingembre. C'est-à-dire qu'à la maturation de leur condition spirituelle, ils arrivent à escalader des sommets fort hauts, indiquant qu'ils réalisent des projets grandioses et font d'énormes sacrifices dans la voie de Dieu. L'effet du gingembre. L'on doit se rappeler que le gingembre exerce à l'égard du corps des effets vivifiants, soulageant les troubles de la dysenterie et réchauffe pour ainsi dire le corps, si bien que l'on se sent capable d'escalader des montagnes. En juxtaposant le camphre et le gingembre, l'intention est de faire savoir que lorsqu'une personne passe d'un état où elle est dominée par ses passions à celui où elle les vainc pour être juste, il y a un premier temps où les produits toxiques sont supprimés et éliminés, où les passions sont supprimées, à l'instar du camphre qui supprime les poisons. C'est la raison pour laquelle le camphre s'avère être utile dans le traitement du choléra et de la typhoïde. Lorsque les produits toxiques sont complètement éliminés et le patient se rétablit sans pour autant retrouver toutes ses forces, le deuxième temps intervient où il prend des forces en consommant une boisson aromatisée au gingembre. Au sens spirituel, cette boisson symbolise la beauté divine qui sert de nourriture à l'âme. Puisant ses forces à partir de cette manifestation de la beauté, il se sent capable d'escalader des sommets inouïs. En d'autres mots, il accomplit des tâches si ardues dans la voie de Dieu que s'il n'était pas animé par un amour si intense, il ne parviendrait pas à le faire. Dans ces versets, Dieu le Tout-Puissant a employé deux mots arabes pour expliquer ces états, le mot « camphre » qui signifie « supprimer » et le mot « gingembre » qui signifie « escalader ». Ce sont là les deux états rencontrés par ceux qui cherchent Dieu. Nous avons préparé des chaînes, des colliers de fer et un feu crépitant pour les mécréants. Chapitre 76, verset 5. Cela signifie que Dieu a préparé des chaînes, des colliers de fer et un feu flambant pour ceux qui nient la vérité et ne font montre d'aucune inclination à l'accepter. Le sens en est que ceux qui ne cherchent pas Dieu avec dévouement et sincérité sont amenés à subir forcément les conséquences. Ils sont si pris par le monde qu'on pourrait dire qu'ils ont les pieds enchaînés et ils s'inclinent vers des buts mondains comme s'ils avaient autour du cou des colliers qui les empêchaient de regarder vers le ciel. Ils ont dans le cœur un désir brûlant pour les choses de ce monde et se disent « si seulement nous pouvions acquérir ces biens, puis dominer tel pays et vaincre tel ennemi et posséder telle somme d'argent. » Comme Dieu le Tout-Puissant constate que ces gens sont sans valeur et qui sont passionnés par des buts indésirables, il les afflige de ces trois types de souffrances, à savoir les chaînes, les colliers et le feu crépitant. Cela sous-entend qu'à chaque action de l'homme, il existe une action correspondante venant de Dieu. Comme une personne qui ferme les fenêtres de sa chambre, son action est suivie par une action divine suivant laquelle il fait sombre dans la chambre. Toutes les conséquences qu'entraînent nos actions, en accord avec ce que Dieu a prévu selon la loi de la nature, sont en fait des actions de Dieu, d'autant qu'il est la cause de toutes les causes. Par exemple, si quelqu'un boit du poison, son action sera suivie de celle de Dieu par laquelle il trouvera la mort. De même, si quelqu'un se comporte de telle manière à contracter une maladie infectieuse, son action sera suivie de celle de Dieu par laquelle il tombera malade. Ainsi, l'observation démontre clairement que dans la vie courante, à chaque action, il y a forcément une conséquence qui est l'acte de Dieu. Cette loi s'applique dans le domaine spirituel également. Par exemple, il est dit « Et quant à ceux qui font des efforts pour notre cause, nous les dirigerons assurément sur nos voies. » Chapitre 29, verset 70. Alors, quand ils dévièrent du droit chemin, Allah fit dévier leur cœur. Chapitre 61, verset 6. Cela signifie qu'en réponse à l'effort intense fourni par quelqu'un qui cherche ardemment Dieu, l'action inévitable de Dieu est de le guider dans la voie qui le conduit vers lui. À l'encontre de cela, il est dit, lorsqu'ils quittèrent le droit chemin et ne souhaitèrent pas le parcourir, l'action de Dieu survint en ce sens que la perversité gagna leur cœur. Afin d'illustrer ceci plus clairement, il est écrit « Celui qui demeure aveugle en ce monde le sera dans l'autre et encore plus égaré. » Chapitre 17, verset 73. Cela indique que les justes voient Dieu en ce monde. Ils perçoivent leur bien-aimé en ce monde même. Et pour le voir, ils sacrifient tout ce qu'ils possèdent. Le sens de ce verset est que la charpente de la vie future est élaborée en ce monde-ci et que l'origine de la cécité dont souffrent les damnés de l'enfer, se trouve dans la vie vile et aveugle qu'ils mènent en ce bas monde. Puis il est dit, « Donne la bonne nouvelle à ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres, qu'ils hériteront des jardins sous lesquels coulent des rivières. » Chapitre 2, verset 26. Dans ce verset, Dieu le Tout-Puissant a décrit la foi comme un jardin où coulent des rivières. Ainsi, il a indiqué dans ce langage profondément philosophique que la foi a un rapport avec les bonnes œuvres, tout comme le jardin a un rapport avec l'eau de la rivière. Comme un jardin ne peut fleurir sans eau, de la même manière, la foi ne peut subsister sans l'accomplissement des bonnes actions. S'il y a la foi mais pas d'action pieuse, cette foi-là est vaine. S'il y a des actions pieuses mais pas la foi, ce n'est que du trompe-l'œil. La réalité du paradis, telle qu'il est présenté par l'islam, est qu'il est le reflet de la foi et des œuvres accomplies en ce monde d'ici-bas. Le paradis n'est pas quelque chose provenant d'ailleurs qu'on octroiera à quelqu'un. Le paradis se construit en notre fort intérieur. Le paradis de tout un chacun est sa foi et les bonnes œuvres qu'il accomplit. Et c'est en ce monde d'ici-bas qu'il commence à goûter aux délices du paradis. L'on commence à percevoir également en ce monde les jardins de la foi et les rivières de nos bonnes œuvres. Mais ce n'est que dans l'au-delà qu'ils se matérialiseront concrètement. Le saint enseignement de Dieu nous apprend que la foi pure, parfaite et ferme en Dieu, dans ses attributs et dans sa volonté, est un merveilleux verger. Et les actions pieuses sont symbolisées par les rivières qui irriguent ce verger. Le Saint-Coran déclare « Ne vois-tu pas comment Allah expose la similitude d'une bonne parole ? Elle est comme un bon arbre dont la racine est solide et dont les branches atteignent le ciel. Il donne ses fruits en toute saison. » Chapitre 14, versets 25 à 26. Cela signifie qu'une parole pieuse qui ne connaît ni excès, ni manquement, ni mensonge, ni vanité, et qui est parfaite dans tous les sens, est-elle un arbre, parfait, sans défaut, dont les racines sont solidement ancrées dans la terre et dont les branches se projettent vers le ciel. L'arbre produit continuellement des fruits, et à aucun moment les branches de l'arbre sont sans fruits. Ainsi Dieu le Tout-Puissant a comparé une parole pieuse à un arbre qui n'arrête pas de produire des fruits. Et il a présenté trois caractéristiques de cet arbre. La première est que les racines doivent être solidement ancrées dans la terre, signifiant que la réalité de la parole pieuse doit être compatible avec la nature et la conscience de l'homme, c'est-à-dire la nature humaine, doit l'accepter. La deuxième caractéristique est que ses branches doivent s'étaler et se projeter vers le ciel, signifiant par là que la parole pieuse doit être en accord avec la raison, le bon sens et la loi de la nature qui est l'œuvre de Dieu. En d'autres mots, la loi de la nature doit fournir des preuves irrécusables quant à la véridicité et la justesse de la parole pieuse, des preuves si parfaites que la main de l'objection, pour ainsi dire, ne puisse pas l'atteindre. La troisième caractéristique de cet arbre est la production ininterrompue et illimitée de fruits. Cela sous-entend qu'en agissant sur la parole juste, les conséquences et bienfaits qui en découlent sont de nature permanente, ininterrompue. Ensuite, il est écrit « Le cas d'une parole injuste ressemble à celui d'un arbre funeste qui est déraciné de la terre et qui n'a aucune stabilité. » Chapitre 14, verset 27. Signifiant que la nature humaine ne l'accepte pas, que sa justesse ne peut être établie ni par la raison, ni par la nature humaine, ni par la loi de la nature. Elle est aussi instable, absurde qu'une chimère. Le Saint-Coran a enseigné que les arbres de la vraie foi se matérialiseront dans la vie future en vignes, grenadiers et autres arbres fruitiers. De même, l'arbre funeste de la mécréance se matérialisera en un arbre appelé Zakum. Quel est le meilleur des deux, les jardins du paradis ou l'arbre du Zakum dont on a fait un supplice pour les mécréants? C'est un arbre qui prend ses racines au cœur de l'enfer, c'est-à-dire qu'il tire son origine de l'arrogance et de la présomption. Ses fruits sont comme s'ils étaient les têtes de Satan, signifiant que celui qui en consommera périra. Ensuite, il est écrit « L'arbre du Zakum sert à nourrir les habitants de l'enfer, qui avaient été pécheurs outranciers. Tels le cuivre en fusion, les fruits du Zakum seront en ébullition dans les entrailles. L'on ordonnera aux pécheurs, subissant maintenant les conséquences. Toi qui te croyais puissant et noble, cette expression qui marque la colère nous apprend que si le pécheur n'avait été arrogant et ne s'était détourné de la vérité avec fierté et présomption, il n'aurait pas eu à subir de telles afflictions. Ce verset indique que le mot Zakum est un mot contracté composé de Suq, qui signifie goûtez-en, et Am, qui lui-même représente la première et dernière lettre de la partie restante du verset, signifiant assurément, tu t'es considéré puissant et noble. Chapitre 44, verset 50. Ainsi Dieu le Tout-Puissant a comparé les paroles pieuses prononcées dans cette vie aux arbres du paradis. De même, il a comparé les paroles impies prononcées dans cette vie à l'arbre infernal, le Zakum. Ainsi donc, il a indiqué que les fondements, et du paradis et de l'enfer, sont posés dans cette vie même. Ailleurs, dans le Saint-Coran, l'enfer est décrit de la manière suivante. C'est le feu d'Allah, sous forme de combustible stocké, qui, une fois libéré, atteindra les cœurs instantanément, chapitre 104, versets 7 à 8, signifiant que l'enfer est un feu dont l'origine est la colère de Dieu. Ce feu est allumé par le péché, et finalement il envahit le cœur. Il est ici indiqué que le point de départ de ce feu sont les peines, supplices et tourments qui affligent le cœur. Toutes les affres spirituelles naissent dans le cœur pour éventuellement envahir tout le corps. Il est également écrit « Le combustible est fait d'hommes et de pierres », chapitre 2, verset 25, signifiant que le combustible qui sert à attiser le feu de l'enfer est de deux types. Primo, ce sont les gens qui abandonnent Dieu pour adorer d'autres objets, ou les gens qui se font adorer eux-mêmes. Comme il est dit, « Assurément, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, vous serez le combustible de l'enfer », chapitre 21, verset 99. Signifiant que les idoles ou faux dieux ainsi que les adorateurs seront tous jetés en enfer. Secundo, ces idoles seront les combustibles de l'enfer. S'il n'y avait point de faux dieux, point d'idoles, ni d'adorateurs pour les adorer, l'enfer n'existerait pas. Tous ces versets nous enseignent que selon la sainte parole de Dieu, le paradis et l'enfer ne ressemblent pas au monde physique. Ils prennent leur source dans la spiritualité. Et quoi qu'il est vrai que dans l'au-delà, ils prendront des formes concrètes, pourtant, ils n'appartiennent pas à ce monde d'ici-bas. Comment établir une relation spirituelle parfaite avec Dieu? Le Saint-Coran déclare que la méthode par laquelle on peut établir une relation spirituelle parfaite avec Dieu est l'islam, dont le sens est de consacrer sa vie entière pour la cause de Dieu, tout en s'appliquant à faire les supplications qui nous ont été enseignées dans la Sourate Al-Fatiha. Voilà l'essence de l'islam. Les seuls moyens établis pour rencontrer Dieu et connaître le salut sont primo, se remettre entièrement à Dieu, et secondo, la prière enseignée dans la Sourate Al-Fatiha. La loi de la nature n'a fourni que cette méthode seulement. Eux seuls rencontrent Dieu, ceux qui se jettent dans les flammes spirituelles de l'islam, tout en s'appliquant à faire les supplications de la Sourate Al-Fatiha. L'islam est le feu embrasant qui dévore notre vie et consumant nos idoles. Il présente le sacrifice de notre vie, de nos biens et de notre honneur à notre Saint Dieu. En y pénétrant, nous buvons l'eau d'une nouvelle vie et toutes nos facultés spirituelles vont établir des relations fortes avec Dieu, à l'instar de celles qui existent entre proches parents. Tel l'éclair, une lumière jaillit de notre fort intérieur et du ciel, une autre lumière descend sur nous. Avec la rencontre de ces deux lumières, toutes nos passions et tout l'amour que nous éprouvons à l'égard de tout ce qui n'est pas Dieu se consument complètement. Et par rapport à notre vie antérieure, nous sommes comme des morts. Le Saint-Coran appelle cette condition d'islam. En nous soumettant complètement à la volonté de Dieu, nous tuons nos passions Et à travers la prière, nous acquérons une nouvelle vie. Le signe annonciateur de cette deuxième vie est l'avènement de la révélation divine. Atteindre cette étape est interprété comme rencontrer Dieu, ou encore voir Dieu. Pour l'adepte, à cette étape, en vertu de la relation qu'il a établie avec Dieu, c'est comme s'il voyait Dieu. Il est investi d'un pouvoir exceptionnel. Ses sens et ses facultés internes sont illuminés. Il se sent fortement attiré vers la sainteté. À cette étape, Dieu devient ses yeux avec lesquels il voit, sa langue avec laquelle il parle, ses mains avec lesquelles il peut assaillir un ennemi, ses oreilles avec lesquelles il entend, et ses pieds avec lesquels il marche. Le verset suivant fait référence à cette étape. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Chapitre 48, verset 11. De la même manière, il est dit « Ce n'est pas toi qui as lancé, mais c'est Allah qui l'a fait. » Chapitre 8, verset 18. En résumé, à cette étape, l'union avec Dieu est parfaite et sa sainte volonté envahit entièrement l'âme et le sens moral, précédemment faible, s'affermit grandement. La raison ainsi que l'intelligence sont extrêmement affûtées. C'est ce que signifie le verset suivant. Et il les a fortifiées de son esprit. Chapitre 58, verset 23. À cette étape, l'amour pour Dieu et la soumission envers lui sont tels que mourir pour sa cause, subir des milliers de tourments dans sa voie, être déshonoré dans sa voie, deviennent aussi faciles que briser un brin de paille. L'on est tiré vers Dieu sans avoir aucune connaissance de qui nous tire. Une main cachée nous conduit ici et là, et accomplir sa volonté devient le but de notre vie. À cette étape, Dieu est très proche, comme il l'a dit. Nous sommes bien plus près de lui que l'est sa veine jugulaire. Dans cette condition, les vaines relations qui dégradent l'homme tombent, tout comme les fruits mûrs tombent spontanément de l'arbre. Sa relation avec Dieu s'approfondit et il s'éloigne de la création. La parole et le discours de Dieu l'honorent. Les portes donnant accès à cette étape sont aussi grandes ouvertes aujourd'hui qu'elles ne l'ont été auparavant, et la grâce de Dieu accorde encore ce don à ceux qui s'efforcent de l'avoir, comme cela l'a toujours été. Mais cela ne peut se réaliser simplement en claquant la langue. De vaines paroles et des fanfaronnades ne peuvent ouvrir cette porte. Nombreux sont-ils à chercher cette voie, mais peu la trouvent. Pourquoi ? C'est parce que cette étape exige un désir réel et un vrai sacrifice. De simples paroles n'ont aucune valeur dans cette sphère. Avancer avec sincérité vers le feu qui fait fuir les autres est la première exigence requise de cette voie. Se vanter ne sert à rien. L'essentiel, c'est du zèle et un désir profond traduit dans la pratique. À ce sujet, Dieu a lu la gloire, a dit « Quand mes serviteurs t'interrogent à mon propos, dis-leur, je suis tout prêt. Je réponds à l'appel du suppliant lorsqu'il fait appel à moi. Aussi doivent-ils me chercher à travers leurs prières et avoir une foi inébranlable en moi afin d'être guidés dans la bonne voie. » Chapitre 2, verset 187.